comme ça, ça permettra d'être à l'heure jusqu'au bout. Et j'ai donc passé la parole à une représentante de l'AFP, Madame Gendron, qui va vous expliquer un petit peu l'association de la polyarthrite. Mais si, je ne sais pas si vous voulez rester là. Je ne sais pas, ces micros, comment ils s'allument derrière, peut-être.
Bon, donc moi je vais commencer par les remerciements, parce que c'est grâce à beaucoup de personnes que nous sommes ici. D'abord à vous, public, d'être là. Ensuite au docteur Solo Gervais qui s'est investi dans cette réalisation. À tous les intervenants que vous allez avoir au cours de cet après-midi. Et aux différents délégués des quatre départements qui sont présents ici. Mais avant tout, je voulais remercier une personne qui a été à l'origine de notre association il y a 20 ans, Madame Rosier, qui est au milieu, en fauteuil. Voilà, qui était à l'origine donc de l'association de la polyarthrite et également sur la Vienne. Bon, ce salon, il y avait de nombreuses années qu'apparemment Poitiers n'en avait pas reçu. Donc, c'est un événement. Et puis, ma foi, avant de céder la parole aux conférenciers, je vais vous présenter l'association. Cette association donc, a été créée il y a 20 ans. Elle regroupe environ 5000 adhérents atteints ou non de cette maladie et plus généralement des rhumatismes inflammatoires chroniques. Alors les rhumatismes inflammatoires chroniques, ça englobe beaucoup de choses, des maladies telles que la spondylarthrite, telles que les lupus et beaucoup de choses. Enfin, Madame Solo vous en dira plus que moi. Tout ça fait que cette année, nous avons changé notre sigle. Nous sommes devenus de l'AFP qui portait un peu à confusion avec l'Agence française de presse à l'AFP RIC. Donc rhumatisme inflammatoire chronique. Alors la structure de cette association, c'est d'abord un secrétariat national où il y a 9 salariés qui sont épaulés par des bénévoles. Ensuite, en délégation, dans les départements, il y en a environ 70 sur le territoire français qui sont gérés uniquement par des bénévoles. Pour le Poitou-Charentes, nous avons pour la Vienne, alors Katia Vigné, au fond, Brune, voilà, Monsieur Guy Clément, à côté de Katia. Pour la Charente-Maritime, Madame Elisabeth Maupin, que vous avez vue à l'entrée. Pour les Deux-Sèvres, Madame Micheline Boutet, qui est donc devant, voilà. Et pour la Charente, nous avons beaucoup de chance, nous sommes 2, Daniel Landreau, là-bas, et moi-même, Mireille Gendron. Bon, au cours du pot de l'amitié qui suivra cette réunion, on pourra échanger avec vous pour avoir plus d'informations sur nos activités diverses. Alors, cette association, elle s'est justifiée par un besoin de la part des malades. Et notre rôle, en fait, on se dirige vers plusieurs actions. L'information sur la maladie et ses traitements via la publication d'une revue trimestrielle pour ceux qui sont adhérents, Polyinfo. Vous en avez à l'entrée, il y en a quelques exemplaires qui pourraient être consultés. Ensuite, il y a tout récemment une nouvelle édition Polydéco qui donne des conseils sur l'aménagement du domicile pour les gens qui sont handicapés. Ensuite, vous avez différentes éditions, notamment le dictionnaire de la polyarthrite, des plaquettes dont on vous en a remis un certain nombre dans les sacs que vous avez pu retirer à l'entrée. L'information des malades aussi, c'est aussi l'aide. Et l'aide, elle passe par une assistante sociale qui travaille au siège, qui s'appelle Sandrine Rollot. Il y a donc ce service entraide qui vous permet, si vous avez un problème, pour faire reconnaître votre maladie, pour obtenir des aides, etc., elle vous donnera ce qui se fait, où vous devez vous adresser, en plus de ce que nous, on peut vous apporter. Il y a également, depuis quelques mois seulement, un service juridique, c'est-à-dire qu'on met à la disposition des malades un avocat pour tout ce qui peut toucher la maladie, bien sûr, ça ne concerne pas du tout les problèmes que vous pourriez avoir avec un voisin ou autre. C'est uniquement pour vos problèmes de maladie. Mais il ne faut absolument pas engager une procédure avant de vous adresser à ce service. Ensuite, un rôle très important, c'est l'aide à la recherche. Bon, la recherche, ma foi, elle avance. La preuve en est maintenant des nouveaux médicaments. Il y en a régulièrement qui viennent nous aider et on espère non pas guérir, mais tout au moins atténuer largement les effets nocifs de cette maladie. Il faut savoir qu'en 2007, l'AFP RIC a donné 35 000 euros de subvention au Génotel. Le Génotel, c'est un laboratoire exclusivement réservé à la recherche. Bon, et deux petites précisions. Le Téléthon ne reverse aucune somme à la recherche pour la polyarthrite. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, certaines personnes disaient le Téléthon, c'est toute la recherche. Mais non, c'est pas toute la recherche, notamment pas pour la polyarthrite. Il y a une autre association, Arthritis, avec qui nous avons des relations normales, mais qui a apparemment démarché certains de nos adhérents pour des dons en disant que c'était la même chose. Ben non, c'est deux associations différentes, même si l'entente est cordiale, c'est deux associations différentes. Donc ça, c'est des petits points que je voulais vous préciser. Ensuite, il faut dire que nous travaillons avec plusieurs organismes. Nous travaillons avec d'autres associations, telles que l'Association des paralysés de France, telles que ceux qui s'occupent des maladies rares, telles que le Courir, qui s'occupe des maladies polyarthritiques, mais enfantines. Toutes ces associations peuvent apporter, bien entendu, leur contribution, hein, et nous, on est ouverts également à ça. Il est toujours bon d'échanger, il ne faut pas se cantonner simplement dans notre petite maladie, entre guillemets. Ensuite, nous représentons également les usagers dans différentes instances, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les maisons de retraite, les caisses d'assurance maladie, la maison départementale des personnes handicapées, etc. Voilà pour le rôle de l'association. Alors, cette association, eh bien, tout ça, ça coûte. Alors, comment vit-elle ? Elle vit grâce aux cotisations des adhérents, aux dons, mais à ce sujet, le don FPRIC vous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 66% de la somme versée qui est déductible sur vos impôts couvrant l'année précédente. Donc sachez que si vous donnez par exemple 100 euros, en fait vous n'en aurez dépensé que 34. Vous en aurez avancé 100, mais vous n'en dépenserez que 34 au final. Elle vit également avec le partenariat des industries pharmaceutiques. Et à ce titre, aujourd'hui, c'est le laboratoire Roche. Alors, je ne sais pas où est cette dame. Voilà, le laboratoire Roche qui patronne cette réunion. Elle vit aussi grâce aux subventions des diverses collectivités locales, des organismes publics, aux dons des entreprises également, puisque ces entreprises bénéficient également d'avantages fiscaux. La vente d'ouvrages qu'elle édite, tels que ceux que vous avez pu voir à l'entrée, les plus connus, ce sont le dictionnaire de la polyarthrite, un ouvrage qui vous permet de repérer beaucoup de choses, beaucoup de mots par mot, etc. C'est très bien fait. Ne passez pas à côté de vos droits que vous devez avoir, je pense, dans les sacs qu'on vous a remis, et tout un tas d'autres, hein. Voilà. Pour toutes ces actions, elle bénéficie de l'aide de professionnels de la santé et des droits sociaux, c'est-à-dire que les délégués ne font en principe aucune conférence sans qu'il y ait médecins, professionnels, par exemple aujourd'hui, bon, il y aura la rhumatologie, il y aura la diététique, il y aura beaucoup de choses. Et dans les droits sociaux, c'est pareil. Nous faisons intervenir la CRAMCO, le CPAM, etc. pour avoir toujours des renseignements qui soient très fiables. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. À la suite de ça, je vais laisser la parole au docteur Solo Gervais, qui connaît bien notre association, pour y avoir participé très activement dans la délégation du Nord-Pas-de-Calais. Et puis, elle va vous informer du déroulement de cet après-midi et vous présenter les différents intervenants. Voilà.
Excusez-moi une petite seconde. Je voudrais faire une photo de la salle pour mettre dans le prochain bulletin de Polyinfo. Est-ce qu'il y a des personnes qui voient un inconvénient à ce qu'elle paraisse sur la photo ou est-ce que je peux y aller? Merci.
Puisque Madame Azaïs parlera en premier. Donc on a choisi pour la réouverture des années sur la polyarthrite rhumatoïde, enfin sur les rhumatismes inflammatoires, de commencer uniquement sur la polyarthrite rhumatoïde. Donc même si c'est un salon de l'AFP RIC, on parlera que de la polyarthrite rhumatoïde aujourd'hui. On pourra éventuellement les autres années diversifier et parler des autres rhumatismes inflammatoires. Donc on a choisi quelque chose d'assez... j'espère que vous ne trouverez pas que ça fait trop, parce qu'il y a déjà pas mal de choses. La présentation de la maladie, l'intervention de la diététique, l'intervention de l'ergothérapie, les traitements, et puis un petit mot sur l'éducation thérapeutique qu'on peut proposer aux patients. Donc je vais tout de suite passer la parole à Isabelle Azaïs pour sa communication sur qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde.
Bienvenue à tous et merci d'être venus aussi nombreux parce que c'est un petit peu impressionnant, donc ça correspond manifestement à une demande, donc ça c'est très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis rhumatologue dans le service de rhumatologie de Madame le professeur Debier, je travaille donc avec Madame Soulo-Gervais et nous prenons en charge bien sûr les rhumatismes inflammatoires, en particulier donc la polyarthrite rhumatoïde, mais je dois dire qu'on les prend en charge pas tout seul, c'est en collaboration avec les médecins traitants et également avec les rhumatologues de ville, je crois que c'est important de le dire. Donc je suis censée vous parler de la polyarthrite rhumatoïde, je pense qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent bien, parce que manifestement vous la côtoyez d'un petit peu trop près. Vous le savez, vous ne le savez que trop, c'est une maladie articulaire, donc c'est un rhumatisme. Mais c'est un rhumatisme qui est complètement différent de l'arthrose dont on entend souvent parler. La polyarthrite rhumatoïde, c'est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la polyarthrite rhumatoïde. Peut-être que lors d'un autre salon, on parlera plutôt de la spondylarthrite ankylosante ou du rhumatisme psoriasique, enfin qui sont d'autres rhumatismes inflammatoires. Donc c'est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. Ça touche en France à peu près 250-300 000 personnes donc, qui sont concernées par la maladie. Ce sont essentiellement des femmes, ce qui ne veut pas dire que les hommes sont totalement exclus, mais ce sont en général des femmes qui sont plus atteintes donc, par la maladie, en sachant que la maladie peut commencer à n'importe quel âge, même parfois dans l'enfance, avec un pic de fréquence aux alentours de la ménopause, donc entre 40 et 60 ans. Alors, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions, en sachant que les réponses que je vais pouvoir donner sont parfois incomplètes, parce qu'on ne connaît pas tout dans la polyarthrite. Alors, comment peut-on expliquer les lésions observées au cours de la maladie? Je vous ai mis sur la gauche une articulation normale. Donc, une articulation normale, c'est deux extrémités osseuses qui sont représentées en jaune, qui sont en présence l'une de l'autre. Ces extrémités, elles sont recouvertes de cartilage, c'est ce que j'ai représenté en vert. Quand vous mangez une cuisse de poulet, c'est le cartilage, c'est ce qui est bien blanc, bleuté, là, bien brillant sur les extrémités osseuses. Ces extrémités osseuses, elles sont maintenues l'une en face de l'autre, donc par la capsule articulaire, par les ligaments, par les muscles. Et puis, cette articulation, elle est tapissée d'une membrane qu'on appelle la membrane synoviale et qui est représentée en rose à ce niveau-là. Alors, la polyarthrite rhumatoïde, enfin, cette dernière information, là, le rôle de cette membrane synoviale, c'est de fabriquer un petit peu de liquide pour lubrifier un peu l'articulation. Donc, il y a toujours un petit peu de liquide dans une articulation à l'état normal. Eh bien, dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est cette synoviale qui va être anormale, qui va s'enflammer. Et lorsqu'elle est agressée, elle réagit donc par une réaction inflammatoire et en sécrétant une quantité excessive de liquide. Donc c'est comme ça que survient l'épanchement articulaire qui provoque les douleurs, les premières douleurs de la polyarthrite. Donc vous voyez que là, l'articulation est beaucoup plus gonflée et donc effectivement, votre articulation augmente de volume, devient douloureuse. À ce stade, quand on intervient avec les médicaments à ce stade, on va faire régresser l'inflammation et l'articulation va revenir à son état antérieur, c'est-à-dire strictement normal. Donc c'est important d'intervenir tôt parce que si les phénomènes, donc là la membrane synoviale inflammatoire, le liquide articulaire en excès, le cartilage intact, si les phénomènes donc perdurent, la synoviale, toujours représentée en rouge là, va s'hypertrophier, va devenir beaucoup plus épaisse, et petit à petit, elle va éroder le cartilage. Vous voyez que là, le cartilage vert est devenu beaucoup moins épais et beaucoup plus irrégulier. Et puis, non seulement le cartilage, mais également donc les extrémités osseuses. Donc la synoviale très épaissie, c'est ce qu'on appelle le panus synovial. Parfois, on peut très bien le palper au niveau des articulations. Et il y a donc des érosions du cartilage et une véritable destruction des extrémités osseuses. Vous voyez que quand l'articulation est détruite comme ça, les lésions sont irréversibles, même si on fait régresser avec nos médicaments, même si on fait régresser l'inflammation, l'articulation est détruite et on ne fera pas repousser le cartilage, on ne fera pas repousser les extrémités osseuses. Il n'y a plus qu'une solution éventuellement chirurgicale au niveau de cette articulation. Alors, est-ce qu'on connaît la cause de la polyarthrite rhumatoïde ? Vous êtes en général très nombreux à nous poser la question. Ben, on connaît beaucoup de choses et en fait, on connaît très peu de choses. La cause elle-même, le facteur déclenchant de la maladie est encore inconnu. On ne sait même pas s'il existe. Peut-être qu'il s'agit d'un microbe. Enfin, peut-être qu'il y a une agression X microbienne éventuellement, mais on ne le sait pas très bien. Donc ça, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a de toute façon des facteurs extérieurs qui interviennent. Alors ces facteurs extérieurs, ça peut être par exemple les hormones, puisque c'est plus fréquent chez la femme que chez l'homme, c'est plus fréquent au moment de la ménopause, donc il doit y avoir un statut hormonal qui intervient. Il y a peut-être le rôle déclenchant en tout cas d'une infection, une infection virale, une infection microbienne, on ne le sait pas. Probablement les troubles psycho-affectifs interviennent également dans cette maladie, peut-être un facteur alimentaire. Vous voyez qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, on se pose beaucoup de questions. Pour le moment, on n'a pas toutes les réponses à ces questions. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que c'est une maladie auto-immune. Alors, le système immunitaire, c'est le système de l'organisme qui vous permet de vous défendre quand l'organisme est agressé. Si par exemple vous avez un microbe qui attaque l'organisme, eh bien, votre système immunitaire va se déclencher pour mettre l'intrus dehors. Eh bien là, le système immunitaire est perturbé et ce système immunitaire il va se mettre à fabriquer des anticorps contre ses propres constituants, donc contre ses propres articulations. Et au cours de la maladie, on sait qu'on trouve, enfin, dans la plupart des polyarthrites rhumatoïdes, on retrouve à la prise de sang des anticorps qui sont donc spécifiques de la maladie. Vous avez dû en entendre parler, c'est la sérologie rhumatoïde, donc les fameux tests du latex et du valère rose, ou des anticorps dits anti-CCP. Et puis, ça ne suffit pas, il y a également un terrain génétique qui prédispose à la maladie. Alors quand on dit qu'il y a un terrain génétique qui prédispose à la maladie, ça ne veut pas dire que c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une polyarthrite rhumatoïde que vous allez transmettre cette maladie à vos enfants. Mais vous allez éventuellement transmettre le terrain qui favorise cette maladie, encore que ce n'est pas certain parce que la moitié des gènes viennent de votre conjoint. Mais vous pouvez éventuellement transmettre le terrain, mais vous ne transmettez pas directement la maladie. Il faut d'autres facteurs qu'on a vus, les perturbations du système immunitaire, d'autres facteurs et une cause X pour que la personne déclenche la maladie. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on sait. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Alors, on va revenir à des choses un petit peu plus simples. Qu'est-ce qui déclenche la maladie ? Quelles sont les manifestations qui révèlent la maladie ? La plupart des personnes qui souffrent de polyarthrite savent que ça a commencé, enfin très souvent, ça commence par les articulations, ce qu'on appelle les articulations distales, c'est-à-dire les petites articulations des mains, des pieds. Donc souvent, ce sont les doigts, les poignets, la base des orteils qui deviennent douloureux. Ça peut aussi parfois commencer par les grosses articulations telles que les genoux ou les épaules. Et ce qui est assez caractéristique de cette polyarthrite, c'est qu'en général, les articulations sont atteintes d'une façon relativement bilatérale et symétrique. C'est les deux mains, c'est les deux épaules, c'est les deux genoux qui peuvent être atteints. C'est beaucoup plus rarement asymétrique, une seule articulation. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces articulations ? Eh bien, le premier signe, ce sont les douleurs. Mais ce n'est pas une petite douleur qu'on ressent une fois de temps en temps comme ça. Ce sont vraiment des douleurs qui sont tenaces, qui vont perdurer pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, voire des mois. Et ces douleurs, elles ont un horaire très particulier. Elles prédominent en fin de nuit. Donc, les personnes sont souvent réveillées vers 4h, 5h du matin. Et elles sont à prédominance matinale. Ça n'a rien à voir avec les douleurs qu'on peut ressentir après une journée de travail physique en fin de journée. Ce sont des douleurs qui réveillent le matin et qui prédominent, qui prédominent donc en début de journée, souvent donc pendant plusieurs heures. Et parfois, lorsque la polyarthrite est très, très inflammatoire, ça peut durer toute la journée, mais il y a tout de même cette prédominance matinale. Alors, accompagnant les douleurs, il y a une raideur matinale. Là aussi, c'est une raideur qui est prolongée, très souvent plus d'une demi-heure. Ça n'a rien à voir avec la raideur que peuvent ressentir les personnes qui souffrent d'arthrose, qui sont un petit peu raides au démarrage pendant 5-10 minutes, et puis après, ça va. Donc là, c'est vraiment une raideur prolongée qui, là encore, peut perdurer toute la journée lorsque ça ne va pas bien. Alors, bien sûr, quand on a mal aux articulations, quand on est raide, eh bien, il y a forcément un handicap qui est lié, qui accompagne ces douleurs et cette raideur. Alors, cette gêne fonctionnelle, ce handicap, il est très variable d'une personne à l'autre, mais il est très souvent extrêmement invalidant. Ça peut commencer tout simplement par serrer la main de l'autre. C'est quelque chose qui est extrêmement pénible. Ça peut être extrêmement pénible également pour couper sa viande parce qu'il faut une certaine force et il y a une diminution de la force de préhension, donc au niveau des mains. Et c'est vraiment dans tous les petits gestes quotidiens pour ouvrir une bouteille, pour ouvrir une poignée de porte, une fenêtre, donc toutes les clés de voiture. Tous ces petits gestes-là deviennent extrêmement pénibles. Et puis, bien, quand vous avez mal, quand vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, quand vous êtes réveillé la nuit, bah forcément, il y a une certaine fatigue qui accompagne donc ce tableau initial. Alors, comme les photos valent mieux que tous les discours, je vous ai mis quelques photos de personnes venant consulter avec ce tableau de douleur des mains. Si vous regardez ces mains, bon, elles sont, il faut bien regarder, mais vous voyez que certaines petites articulations sont déjà un petit peu gonflées. Ça va se voir cliniquement. D'ailleurs, très souvent, la personne nous dit « Mais vous savez, je ne peux plus mettre mes bagues. J'ai été obligée de les enlever. » Et puis, ça se palpe. On sent très bien à la palpation que l'articulation est un petit peu gonflée. Alors, peut-être vous allez mieux le voir sur cette autre photo. Vous voyez ici. Voilà. Ça, ce sont des articulations qui sont gonflées. Ne regardez pas les ongles là, parce que ça, c'est un petit peu différent. Toujours polyarthrite différente, polyarthrite débutante, ça survient à n'importe quel âge. Donc là, ce sont des mains qui ont un âge peut-être un petit peu plus avancé. Vous voyez que là, tout le dos de la main est gonflé. On ne voit plus les petites veines du dos de la main. Là, ce sont surtout ces deux articulations-là qui sont gonflées, un petit peu également là et là. Et puis, je vous ai dit que ça pouvait commencer également par des grosses articulations. Alors, je suis désolée, la photo n'est peut-être pas très esthétique, hein, mais les pieds sont vers vous et la tête est en haut, là. Donc, ce sont des genoux. Et si vous regardez, les deux genoux sont gonflés, mais particulièrement celui-là. Vous voyez que là, il y a tout un gonflement articulaire qu'on ne devrait pas avoir. Alors voilà, donc la personne vient vous voir, elle vous dit qu'elle a ses douleurs, un horaire très particulier de la douleur, vous l'examinez, vous constatez que les articulations sont gonflées. Comment va-t-on confirmer le diagnostic de polyarthrite débutante ? Parce que il peut y avoir de polyarthrite rhumatoïde débutante, il peut y avoir plusieurs types de polyarthrite, mais la polyarthrite rhumatoïde. Eh bien, le médecin va vous examiner. Et de façon un petit peu bizarre, il va examiner les articulations, mais il va surtout examiner tout ce qui n'est pas articulation. Donc il va examiner la peau, il va examiner les poumons, il va vous interroger sur les problèmes digestifs éventuels. Tout ça pour en fait essayer de voir si il s'agit bien d'une polyarthrite rhumatoïde ou éventuellement s'il y a des signes extra-articulaires, s'il ne s'agit pas d'une autre polyarthrite. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un qui a une maladie cutanée, qu'on appelle un psoriasis, c'est une maladie qui peut s'accompagner de manifestations articulaires inflammatoires, donc d'une polyarthrite. C'est vrai que le fait de retrouver du psoriasis chez quelqu'un qui vient vous voir pour une polyarthrite, on aura plutôt tendance à considérer qu'il s'agit d'une polyarthrite psoriasique que d'une polyarthrite rhumatoïde. Encore que, il faudra tout de même aller un petit peu plus loin. Donc, on examine la personne de façon très complète. Et puis, cet examen va permettre également d'apprécier la sévérité de la polyarthrite, puisqu'il y a des polyarthrites qui sont plus ou moins explosives au départ, on va dire. À côté de l'examen clinique, on demandera donc un prélèvement sanguin. Alors ce prélèvement sanguin, qu'est-ce qu'on va voir ? On va vérifier que l'inflammation des articulations s'accompagne d'une inflammation générale. Alors quand il y a une inflammation générale, il y a très souvent une augmentation de la vitesse de sédimentation et de la C-réactive protéine. Donc ça, très souvent, si on vous fait des prises de sang, on demande ces paramètres-là. Il peut y avoir également, quand l'inflammation est très importante, il peut même y avoir une anémie qui participe à la fatigue que peut ressentir la personne. Donc, on confirme l'inflammation par le prélèvement sanguin. On va rechercher les anticorps spécifiques de la maladie, mais il faut savoir qu'au début de l'évolution, ces anticorps, ils ne sont pas toujours présents. Et donc, le prélèvement peut être négatif et il faudra éventuellement le refaire plusieurs mois plus tard, plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard. Et puis, on va également rechercher d'autres éléments pour éventuellement éliminer les autres polyarthrites, donc non rhumatoïdes. L'examen clinique, la prise de sang, les radiographies. On fera également des radiographies, alors le plus souvent des radiographies des mains, des pieds. Ça, c'est pour dépister parfois des radiographies d'autres articulations, lorsque ça commence par d'autres articulations, mais ce que l'on recherche sur ces radiographies, c'est à dépister les tout premiers signes destructeurs. Je vous ai montré tout à l'heure que ça pouvait détruire une articulation, donc on recherche ces premiers signes destructeurs sur les radiographies. Alors là aussi, je vous ai mis des exemples. Donc ça, c'est un poignet. Et donc, vous avez les doigts sont par là, le bras par là. Donc un poignet, c'est fait de plein de petites pièces osseuses différentes. Et ce qu'on regarde, ce qu'on essaye de voir, c'est s'il n'y a pas des petites érosions qui sont marquées par les petites flèches. Là, vous voyez que là, il y a un petit trou. Là, il y en a un autre petit, là, à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là. Toutes ces petites érosions, qui sont très discrètes au départ, signent le caractère destructeur de la maladie, et donc le potentiel destructeur de la maladie, et donc la gravité de la maladie. C'est donc un rhumatisme qui va petit à petit détruire les articulations si on ne l'arrête pas, et donc forcément une articulation détruite est source de handicap, alors que si on arrête les destructions, bien sûr le handicap sera beaucoup moins important. La même chose au niveau des pieds. Alors, vous avez à gauche un pied normal. Vous voyez que toutes les petites pièces osseuses, là, elles sont bien régulières. Vous avez à droite le pied de quelqu'un qui débute une polyarthrite. Et vous voyez que sur le cinquième orteil, là, cette articulation-là est déjà détruite, comparée aux autres. Là. Cette articulation est déjà détruite. Donc, on sait indubitablement qu'il s'agit d'une polyarthrite rhumatoïde. Parfois, le médecin sera amené à vous demander d'autres examens d'imagerie. Alors, l'échographie, ça se développe beaucoup. C'est un examen qui se développe beaucoup actuellement. C'est un examen qu'on faisait de façon très courante en cardiologie ou pour les femmes enceintes. On ne l'utilisait pas jusqu'à une période récente en rhumatologie. Et puis, les progrès techniques font que maintenant, c'est un examen qu'on peut faire. Et vous savez que le service de rhumatologie vient d'acquérir, enfin, cette année, un échographe. Et donc, on développe un petit peu les échographies. L'examen qu'on peut être amené à demander également pour rechercher des destructions articulaires, c'est une IRM, mais le parc des IRM en France n'est pas tout à fait suffisant. Vous savez qu'on a beaucoup moins de machines en France que dans d'autres pays européens, et l'accessibilité à l'IRM est un petit peu difficile, mais probablement dans l'avenir, on fera des IRM de façon beaucoup plus fréquente qu'on ne le fait actuellement. Alors tout ça pour dire qu'en début d'évolution, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, il est souvent difficile. Il est souvent difficile parce que parfois les tuméfactions, enfin le gonflement des articulations ne se voit pas bien. Il faut aller aux examens complémentaires pour le voir. Il est souvent difficile parce qu'il n'y a pas forcément une inflammation à la prise de sang, parce qu'il n'y a pas forcément les anticorps spécifiques de la maladie au tout début de l'évolution. Et parfois, votre médecin ou votre rhumatologue parlera de polyarthrite inclassée. Alors, c'est pas que c'est un mauvais médecin. C'est pas qu'il a loupé le diagnostic, il a pas recherché suffisamment. C'est que cette maladie, elle apparaît de toute façon progressivement et que parfois, il faut un petit peu de temps pour vraiment affirmer le diagnostic. De toute façon, on intervient précocement dans la prise en charge. Même au stade de polyarthrite inclassée, on mettra en place un traitement pour éviter que ça ne progresse. Mais on surveillera étroitement de manière à pister le moins de petits signes destructeurs. Alors ça, c'était la phase de début, mais comment on va évaluer, c'est à cette phase de début qu'on doit faire le diagnostic pour mettre en route les traitements et arrêter la maladie. Parce que sinon, comment ça évolue? Eh bien, espérer la guérison spontanée de cette maladie, là, c'est pratiquement illusoire, c'est vraiment exceptionnel, et on peut se demander d'ailleurs s'il s'agissait vraiment de polyarthrite rhumatoïde dans ces cas-là. Donc bien sûr, sous l'influence des traitements, d'autant qu'on dispose maintenant de traitements qui sont beaucoup plus efficaces que les traitements qu'on pouvait avoir autrefois. Sous l'influence des traitements, on va obtenir une rémission de la polyarthrite. Alors une rémission, ça veut dire quoi? Ça veut dire une diminution des douleurs, voire une disparition des douleurs. Ça veut dire une disparition des tuméfactions, donc des gonflements articulaires. Ça veut dire un arrêt, surtout, un arrêt des destructions articulaires. Et donc on vérifiera par les radiographies qu'on a bien stoppé le tout. Le problème, c'est qu'on n'a jamais entièrement gagné avec cette maladie. C'est-à-dire que même quand on a obtenu une rémission de la maladie, même lorsque ça va bien sous traitement, eh bien, il faut continuer à surveiller parce qu'on n'est jamais à l'abri de la survenue d'une nouvelle poussée avec réapparition des douleurs, réapparition de l'inflammation. Et donc, une nouvelle poussée évolutive est toujours possible. Et c'est pour ça qu'on vous embête en vous demandant de revenir régulièrement en consultation, de faire régulièrement vos prises de sang. Je sais que c'est contraignant, mais c'est pour ça qu'on le fait. Et si jamais la maladie n'est pas suffisamment contrôlée, ce qu'on voyait un peu trop souvent autrefois et ce qu'on peut rencontrer encore, si c'est pas suffisamment contrôlé, bien progressivement, les articulations touchées vont devenir de plus en plus nombreuses. Au départ, il y avait les mains, les pieds, mais bientôt, il y a les chevilles, les genoux, les coudes, les épaules. Les destructions progressent. Très très lentement, ça se fait sur plusieurs années bien sûr, mais les destructions progressent avec apparition de déformations, je vais vous montrer. Et puis bien sûr, plus les articulations sont détruites, plus le handicap est important, et avec des douleurs qui peuvent même persister en dehors des poussées inflammatoires. Hein. Même quand l'inflammation est calmée, l'articulation étant détruite, il peut persister des douleurs. Alors voilà le type de déformation qu'on peut retrouver chez les personnes qui ont malheureusement vu apparaître des destructions articulaires. On a très souvent une déviation des doigts vers l'extérieur, ce qu'on appelle un coup de vent cubital. Vous voyez, c'est deux personnes différentes, donc on retrouve la déviation. Il peut y avoir des déformations au niveau des doigts avec des petites, là ce qu'on appelle des petits nodules, qui sont des petites formations de synoviales sous-cutanées. Voilà un autre exemple. Donc, vous voyez, les deux mains sont atteintes avec donc des tuméfactions au niveau de ces articulations qu'on appelle les métacarpophalangiennes. Là, il n'y a pas trop d'atteintes au niveau des interphalangiennes proximales. C'est surtout les métacarpophalangiennes, les poignets qui sont atteints. Voilà un autre exemple. Alors là, du coup, avec les doigts sont atteints. Donc voilà les déformations qu'on peut rencontrer. Alors on rencontre également des déformations au niveau des pieds. Au niveau des pieds, la déformation la plus typique, c'est celle-ci, avec un gros orteil qui part complètement vers l'extérieur. Alors ce sont des déformations qu'on peut également voir chez des personnes qui n'ont pas de polyarthrite rhumatoïde. Bien sûr, ce sont des déformations qui gênent énormément le chaussage et on est amené à proposer des semelles orthopédiques, à proposer des chaussures orthopédiques, à proposer éventuellement des interventions chirurgicales pour faciliter le chaussage et bien sûr diminuer les douleurs. Alors ces déformations, elles vont se retrouver sur les radiographies. Vous avez ici une radiographie de main normale. Je vous demande de regarder ces articulations-là, les métacarpophalangiennes. Vous voyez qu'ici, elles sont complètement détruites. Ça n'a plus rien à voir. Ça ne ressemble plus à cette articulation-là. Même chose au niveau d'un genou. Vous avez ici un genou normal. Vous voyez qu'ici, le genou est extrêmement détruit. À ce stade, il n'y a plus que le chirurgien qui peut faire quelque chose. Nous, on est forcément limités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cartilage, les os ne repousseront pas avec les traitements qu'on vous donne. Alors heureusement, l'évolution, elle n'est pas tout le temps aussi importante que ça. Elle est variable d'une personne à l'autre. Et en règle générale, on dit qu'il y a à peu près 20 à 30% de polyarthrites qui ne sont pas trop méchantes, des polyarthrites qui sont peu destructrices. Pour autant, ça reste invalidant parce qu'il y a les douleurs, parce qu'il y a la gêne fonctionnelle. Mais on arrive à stopper le processus et le handicap de ces personnes sera relativement modéré. À l'opposé, vous avez 10 à 20% de polyarthrite extrêmement sévère qui continueront à détruire leurs articulations malgré les traitements qu'on peut proposer. Alors, ces polyarthrites très sévères, on espère qu'elles deviennent de moins en moins importantes avec les nouveaux médicaments dont vous parlera tout à l'heure, Madame Solo. Et puis donc, il y a 50% au milieu qui restent des polyarthrites tout de même assez méchantes contre lesquelles il faut vraiment se battre. Alors voilà, je vous ai mis ici les dégâts que peuvent effectivement provoquer, vous voyez, au niveau de plusieurs articulations, les mains, les genoux. Alors bien sûr, vous voyez que cette personne ne peut marcher qu'avec un déambulateur. Et bon, bien sûr, c'est vrai qu'un genou aussi détruit que ça fera l'objet d'une intervention chirurgicale. Donc peut-être qu'on rencontre un petit peu moins souvent, quoique. Alors comment on va surveiller tout ça? Puis je vais bientôt m'arrêter. Comment on va surveiller donc la polyarthrite une fois qu'on a fait le diagnostic, mis en route le traitement? Donc la surveillance, elle vise à toujours réadapter le traitement en fonction des signes de la maladie. Si la maladie reprend, il va falloir qu'on reprenne un traitement un petit peu plus agressif. Si au contraire la maladie se calme, peut-être qu'on pourra maintenir le traitement sans changement. Alors si on vous demande de venir périodiquement en consultation, c'est que périodiquement on va vérifier que la polyarthrite est bien contrôlée par le traitement ou alors qu'elle reprend en activité et donc il va falloir changer. Alors comment on évalue ça? On va vous demander d'évaluer globalement votre maladie. Donc souvent on vous fait faire ça sur des petites échelles où on vous demande de 0 à 10 à combien vous situez votre gêne ou à combien vous situez votre douleur entre 0 et 10. On va évaluer le nombre d'articulations douloureuses à la fois spontanément mais également à la palpation. Donc ça c'est parfois un petit peu pénible pour vous parce qu'on palpe chaque articulation et on provoque les douleurs, mais c'est important. On va compter le nombre d'articulations tuméfiées et puis on va voir bien sûr quelle est l'importance de la vitesse d'augmentation de la CRP. Alors bien sûr, plus on a un nombre élevé d'articulations douloureuses, un nombre élevé d'articulations tuméfiées et plus l'inflammation est importante, plus on estimera que la polyarthrite n'est pas bien contrôlée par le traitement et qu'il faut à ce moment-là changer le traitement. Ce qu'on évaluera également, on évaluera la quantité des médicaments antidouleurs que vous consommez. Donc en général, c'est une des premières questions qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que vous prenez comme médicament à l'heure actuelle. Ça, c'est parce que on ne peut pas considérer que la maladie est bien contrôlée par le traitement chez quelqu'un qui prend par exemple une dose très élevée de cortisone. C'est vrai qu'une dose élevée de cortisone, ça va bien calmer les douleurs, sauf qu'on ne peut pas laisser la personne avec des doses élevées très très longtemps, parce que sinon, elle va, aux ennuis de la polyarthrite, elle va accumuler les ennuis liés aux médicaments. Donc on ne peut pas se contenter de ça, donc on évalue également les médicaments que vous recevez et que vous consommez. Et puis bien sûr, on surveille la maladie, mais on surveille les effets potentiels que peuvent entraîner les médicaments, donc à la fois sur le plan clinique, à la fois sur le plan biologique. Alors tout ça, donc si cette surveillance elle est si contraignante que ça pour vous, c'est toujours pour adapter régulièrement le ou les traitements nécessaires. Le but de tout ça étant de stopper les destructions articulaires, de stopper les douleurs bien sûr, mais surtout de stopper le processus destructeur, pour vous permettre de garder une qualité de vie correcte. Voilà ce que je voulais vous dire. Mme Solo, tout à l'heure, vous parlera des traitements, et donc là, elle pourra vous dire qu'on arrive à faire quand même un petit peu des choses.
Merci beaucoup au docteur Azaïs. Alors, on a prévu d'essayer de faire à chaque topo, de vous laisser la parole si vous avez envie, en sachant qu'on fera thème par thème. C'est-à-dire que là, si vous avez des questions sur le diagnostic, sur la surveillance, sur les choses comme ça, on peut en parler maintenant. Sinon, on continue. essayer de parler sans micro pour ceux qui ont demandé la parole, puis je vais voir si
on arrive.
Oui, bonjour. Lorsqu'on parle de polyarthrite virale, est-ce que ce type de maladie peut passer exactement comme elle est venue au bout de plusieurs mois, ou est-ce que l'on risque d'avoir ensuite une polyarthrite rhumatoïde? Est-ce que ça passe vraiment ou...
Non, quand on parle d'une polyarthrite virale, oui, c'est une polyarthrite qui va s'éteindre. Alors, c'est une polyarthrite, si vous voulez, qui va... le premier stade que je vous ai montré avec l'articulation qui est gonflée, voilà, ça, mais ça va s'arrêter là, et spontanément, ça va s'éteindre. Hein, donc ce sont des polyarthrites, effectivement, qui disparaissent d'elles-mêmes, donc qui peuvent accompagner, par exemple, une rubéole, des oreillons...
une primo-infection aussi
par vos virus. Oui. Une primo-infection, vous parlez de primo-infection, pour nous, ça veut dire tuberculose, donc c'est pas dans le cadre de tuberculose, non.
Oui, d'accord.
Mais enfin, bon, un contact viral avec certains virus, qu'on n'identifie pas toujours... Hein, mais un contact viral peut effectivement entraîner une polyarthrite, mais il s'agit d'une polyarthrite virale qui est une polyarthrite non destructrice et qui va s'éteindre d'elle-même. Donc là, on va donner des médicaments simplement pour calmer les douleurs, et puis on va tout simplement attendre que les choses s'estompent d'elles-mêmes. Hein, mais il n'y a pas de risque, a priori, il n'y a pas de risque reconnu, si vous voulez, d'évolution vers une authentique polyarthrite rhumatoïde. Alors après, il ne faut pas passer à côté, enfin, il faut que ce soit une authentique polyarthrite virale. Il faut quand même surveiller de manière à ce que faire les radios, de manière à vérifier que oui, tout se passe comme on avait bien prévu. C'est une fois qu'elle est éteinte qu'on peut dire oui, c'était bien une polyarthrite virale. Au départ, on a des arguments pour penser que c'est viral, mais on va rester attentif.
Mais les traitements ne sont pas les mêmes.
Les traitements ne sont pas les mêmes. Enfin, on sera beaucoup plus... À partir du moment où on reconnaît que la polyarthrite est rhumatoïde, donc a un potentiel destructeur, on va être beaucoup plus agressif. Avec les médicaments, bien sûr, on va être plus incisif, si vous voulez, qu'on ne le sera pour une polyarthrite virale. Mais le type de médicaments qu'on utilise au départ, les antidouleurs, les anti-inflammatoires, sont communs aux deux maladies.
Merci.
Voilà. Oui, bonjour. Je suis atteinte de polyarthrite à peu près depuis 2 ans. Mmh. Cette polyarthrite m'a laissée tranquille pendant un petit peu plus d'un an. Je suis en grande rechute et par-dessus cette polyarthrite, je souffre de chondrocalcinose qui me fait énormément souffrir. On a essayé un tas de médicaments, c'est-à-dire les doses de cortisone. J'ai été hospitalisée au CHU pas mal de temps, des hospitalisations renouvelées. On a essayé un tas de traitements. J'en arrive à la morphine en double dose. Plus rien ne me fait.
Alors, dans la mesure où vous me parlez de chondrocalcinose, votre polyarthrite est probablement liée à ces dépôts. Une chondrocalcinose, c'est une maladie qui se traduit par des dépôts de calcium au niveau des articulations. Mm-hmm. Et ces dépôts de calcium, c'est un élément extérieur qui n'a rien à faire au niveau des articulations. Voilà. Et forcément, ça entraîne une inflammation avec les mêmes signes de douleur, gonflement. C'est différent, c'est un processus qui est différent de la polyarthrite rhumatoïde. C'est vrai qu'on utilise, alors là encore, on utilise les mêmes médicaments au début, les antidouleurs, les anti-inflammatoires. On ne va pas utiliser dans la plupart des cas, on ne va pas être amené à utiliser les médicaments qu'on utilise spécifiquement dans la polyarthrite rhumatoïde. Peut-être qu'un jour, on y arrivera, mais pour le moment, les médicaments dont on parlera tout à l'heure sont des médicaments qui sont spécifiquement réservés à la polyarthrite rhumatoïde et qu'on ne donne pas dans les polyarthrites chondrocalcinosiques. Ceci dit, quand il y a des formes particulièrement sévères comme votre maladie, peut-être qu'on peut réfléchir à ça. Mais ce n'est pas en première intention, si vous voulez, c'est pas ce type de traitement.
Parce que je crois que j'ai fait tout le tour des médicaments et j'arrive à un résultat, Soit ça me rend
très
malade.
Extrêmement décevant,
oui. Oui, parce que je acupant.
Alors après, c'est vrai qu'il y a.
Toutes ces choses-là, la morphine. Après,
je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu également avoir cette expérience-là. C'est-à-dire que, effectivement, parfois, les médicaments qu'on peut donner ne sont pas suffisamment actifs. Il faut savoir vraiment revenir chez votre médecin pour dire non, là, ça ne va pas. Donc il faut qu'on trouve encore une autre solution. Et on cherche de concert. Malheureusement, c'est pas quand vous venez à la consultation, si vous voulez, c'est pas vous n'avez pas le petit écriteau, moi c'est tel médicament qui va marcher, ça nous aiderait
je
bien.
Je voudrais bien savoir lequel. Oui,
bon, les uns et les autres, on serait beaucoup plus bons. Mais ça, malheureusement, on n'a pas. Donc on va, on suit toujours un petit peu le même raisonnement, si vous voulez, on va donner le médicament dont on pense qu'il va être efficace. Et ensuite, il faut vérifier si c'est efficace, si c'est pas efficace. Si ce médicament-là n'est pas efficace, il va falloir passer à un autre médicament encore plus...
Mais on trouve le temps long.
Mais on trouve le temps long. Enfin, vous trouvez le temps long, ça, je le comprends bien. Croyez que nous, ce serait beaucoup plus facile également si on pouvait d'emblée trouver le bon médicament. Bon, c'est vraiment une lutte des deux. Hein.
Oui. Il faut, mais voilà. J'espère que mercredi, je me rends dans vos services... Vous trouverez la solution.
Nous voilà prévenus, alors. Nous voilà.
Merci beaucoup. Merci.
Oui, bonjour. Alors, je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde déformante, mais en plus, je cumule le syndrome de Gougeot-Chaugren et la fibromyalgie. C'est-à-dire que j'ai passé des quantités de médicaments. Je suis suivie par le docteur Diallo, que vous connaissez, Bakary. Je n'ai que la morphine et des antidépresseurs, c'est-à-dire les patchs. Je fais des stages de 3 heures en perfusion. Et voilà ce que j'ai. Et les médicaments, quel médicament peut me soulager ma polyarthrite? Actuellement, je ne peux plus me servir de mes mains. Mes poignets me font terriblement mal, plus... je suis atteinte donc du syndrome de Gougeot-Chaugren. J'ai une prothèse depuis un an et dans 2 ans, il m'en faudra une autre pour l'autre genou. Et je suis atteinte aussi des épaules. Alors quel médicament peut m'aider? J'en ai passé depuis 2002 des quantités.
Alors, ça montre bien, si vous voulez, enfin, il y a une personne qui est intervenue en disant polyarthrite virale, une autre personne qui est intervenue en disant polyarthrite chondrocalcinosique, vous-même, il y a une polyarthrite, mais également une fibromyalgie. Vous voyez que toutes ces maladies-là se traduisent au départ par des douleurs articulaires avec éventuellement une inflammation. Et on voit bien que parfois, c'est un véritable parcours du combattant pour trouver les médicaments qui sont efficaces. Alors, c'est vrai que la rhumatologie a fait beaucoup de progrès dans certains domaines, notamment dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde. Les choses sont beaucoup moins avancées dans d'autres rhumatismes tels que, effectivement, la fibromyalgie. Alors, le syndrome de Gougeot-Chaugren, j'en ai pas parlé. C'est vrai que c'est une maladie qui peut accompagner certaines polyarthrites rhumatoïdes, qui entraîne une sécheresse des yeux, une sécheresse de la bouche.
Oui, de toutes les muqueuses.
De toutes les muqueuses, bon. Mais c'est souvent les yeux et la salive. C'est vrai que ça peut être très, très invalidant. Alors, il y a des essais, pour le moment, des essais thérapeutiques qui sont menés, avec peut-être un espoir concernant certains médicaments, mais c'est encore, on n'a pas les résultats pour le moment, et donc puis après, il faut voir votre cas particulier, si vous voulez, là, je ne peux pas vous donner une consultation.
Absolument.
Mais vous voyez bien qu'à des problèmes qui sont relativement similaires, eh ben, il y a des réponses qui ne sont pas toujours les mêmes. Hein. La réponse du médecin n'est pas toujours la même parce que la polyarthrite du voisin n'est pas forcément la même que votre polyarthrite à vous. Oui. Donc il faut faire un diagnostic bien précis pour cibler vraiment le traitement qui vous conviendra.
Et oui, malheureusement.
Mais on n'est pas toujours, c'est vrai, il faut le, si on était toujours efficace et toujours bon, ce serait extraordinaire. Et ça, on sait bien que non, malheureusement, on n'est pas toujours efficace.
Donc, pour moi, je n'ai rien qui, pour l'instant, fait...
Je ne sais pas, madame, ça, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas une consultation privée. Je ne connais pas votre maladie en particulier. Donc
heureusement.
Là, ce sont des généralités. Oui. Je ne peux pas appliquer ça à votre cas personnel. Donc là, ça, je ne peux pas dire. Hein.
Ben, j'espère qu'on trouvera pour d'autres personnes aussi.
Je vous le souhaite, en tout cas.
Merci. Il y a des questions, madame. Dans la première partie de salle. Merci.
Oui, moi, j'ai dans mon entourage un homme qui est atteint de psoriasis depuis quelques années et qui, depuis 2 ou 3 mois, a des gonflements des articulations telles qu'on connaît pour les polyarthritiques, c'est-à-dire les doigts, les poignets, les chevilles, les orteils. Et il commence à se poser beaucoup de questions. Et comme c'est quelqu'un qui est en contact avec moi, il me dit, mais comment ça fait la polyarthrite? J'ai dit, écoute, allez consulter un rhumatologue, parce que je pense que là... Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'un psoriasis peut dégénérer en polyarthrite, ou si c'est la polyarthrite qui était à l'origine qui provoque le psoriasis? Est-ce qu'il y a un état, enfin, un ordre?
Alors, le plus souvent, donc, ce sont des personnes qui sont atteintes d'un psoriasis cutané, donc qui ont la maladie cutanée. Et alors, certains vont garder uniquement la maladie cutanée, ne feront jamais de problème articulaire. Et puis, d'autres ont la maladie cutanée et également la maladie articulaire. Donc, je ne voudrais pas m'avancer trop, mais c'est vrai que ce que vous décrivez évoque une polyarthrite psoriasique, donc liée au psoriasis de cette personne. Alors après, le meilleur conseil, c'est aller consulter un rhumatologue. C'est le rhumatologue qui connaît le mieux la maladie, qui pourra dire si c'est réellement un rhumatisme psoriasique ou éventuellement, mais c'est plus rare, un psoriasis cutané et puis une authentique polyarthrite rhumatoïde. Hein. Mais là, il faut faire les examens pour pouvoir répondre à la question et là aussi pour pouvoir donner les médicaments. On est plus efficace que dans la fibromyalgie et le syndrome de Sjögren. Donc, bon, je vais peut-être passer le micro. Donc,
on va passer maintenant à la diététique avec Mme Bergenot, qui est diététicienne au CHU de Poitiers et qui va nous parler un petit peu de l'alimentation au cours de la polyarthrite rhumatoïde, à la fois donc. De en quoi l'alimentation joue-t-elle pas, vous verrez que les réponses sont encore très floues. Et puis, des choses peut-être un petit peu plus générales, mais essentielles, sur ce qu'on doit manger pour être en bonne santé.
Allô, bonjour à tous. C'est impressionnant, la salle est pleine. Oui, alors on m'a demandé de vous parler un peu alimentation et je vais essayer de faire le lien avec la maladie. Alors j'ai intitulé alimentation, polyarthrite, alimentation santé pour favoriser une meilleure santé possible, santé physique mais santé mentale aussi, et l'alimentation plaisir contribue beaucoup à cette santé mentale. Donc voilà bon, un petit peu l'introduction, je crois qu'il ne faut pas oublier tout ça. Alors je vais commencer par vous parler en quelques mots de certaines orientations qui sont parfois mises en avant mais qui malheureusement ne sont pas des miracles. Donc j'ai mis pas de régime miracle, malheureusement, c'est pas ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui. Donc il y a plusieurs expériences qui ont été tentées, mais qui malheureusement n'ont pas validé de données qui pourraient... qui pourraient être... qui pourraient être utilisées et mises en avant. Alors tout d'abord, il y a le jeûne qui peut être ensuite poursuivi par un régime lacto-végétarien. Donc là, il y a eu quelques expériences. Le jeûne diminue les douleurs, voire les inflammations, mais bon, on peut pas jeûner toute sa vie. Et bon, et la poursuite par un régime lacto-végétarien, c'est-à-dire qu'on exclut la viande, ne confirme pas les améliorations. Autre chose, l'exclusion d'un ou plusieurs aliments. Donc là aussi, il y a eu quelques expériences et des médecins, notamment le docteur Seignalé, met en avant l'exclusion de plusieurs aliments. Donc là, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Attention, il y a des risques de carences nutritionnelles et je vous expliquerai ensuite et vous comprendrez peut-être mieux quels sont ces risques. Et en tous les cas, ce n'est pas validé scientifiquement. Alors, l'alimentation du docteur Seignalé, L'hypothèse serait que, ce qu'il avance, c'est que les suppressions, on supprime les aliments qui interfèrent avec la flore intestinale et le système immunitaire, sachant qu'on vous a décrit que c'était une maladie auto-immune. Alors, c'est un régime d'exclusion, puisque lui, il préconise d'exclure les produits laitiers, d'exclure les céréales, c'est-à-dire notamment le blé qui sert quand même à la fabrication du pain, des pâtes, pratiquement toutes les céréales, sauf le riz, puisque lui, il exclut aussi le maïs. Et puis, il préconise de limiter les aliments cuits et de manger cru, tout ce qui peut se manger cru. Alors, il y a des risques de carence, c'est certain, je vais vous expliquer ensuite. Et puis, il y a une difficulté à suivre à long terme, puisque ce type d'exclusion n'est pas du tout en rapport avec nos habitudes, et, avec notre patrimoine culturel alimentaire, on va dire. Alors, autre chose que j'ai mis à part, puisque ça, c'est un petit peu différent, il préconise le choix des huiles première pression à froid, ce qui n'est pas une exception actuellement, puisque beaucoup d'huiles sont issues maintenant de pression à froid. Et puis, des aliments dits biologiques, alors pourquoi pas, c'est un plus pour notre planète, tout le monde le sait maintenant, mais en ce qui concerne la santé, il n'y a rien qui a été prouvé que le biologique était nettement mieux que ce que l'on peut avoir comme une alimentation habituelle. Voilà ce que je vous dirais de ce régime. Être vigilant, des régimes aussi radicaux, pour l'instant, ne sont pas justifiés. Si c'était justifié, je pense que les médecins vous en parleraient spontanément, beaucoup plus fréquemment. Alors, autre tentative, autre expérience, c'est des expériences qui concernent plutôt des supplémentations. Donc, il y a eu des supplémentations avec du collagène, des collagènes de poulet. Donc, le collagène, c'est ce qui rentre dans la constitution du cartilage. Il y a eu des expériences avec des complémentations avec du sélénium, avec du cuivre, avec du zinc, qui sont ce qu'on appelle des antioxydants, qui participent à, qui luttent contre les destructions cellulaires. Et puis aussi avec de la vitamine C. Donc vitamine C, vous connaissez bien. Donc la vitamine C, c'est une vitamine très importante pour toutes nos cellules, et donc complémentée en vitamine C, est-ce que ça pourrait améliorer à la fois les douleurs et limiter les phénomènes inflammatoires dans la maladie? Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de résultats significatifs pour dire que à tout prix ça marche et ça donne effectivement des résultats. Autre supplémentation, et ça j'y reviendrai, c'est en acide gras polyinsaturé. Alors, acide gras polyinsaturé, c'est un terme qui n'est pas forcément connu, mais que vous connaissez peut-être plus particulièrement maintenant, puisqu'on en fait la promotion, sont les oméga 6 et les oméga 3 que vous pouvez trouver sur les boîtes de margarine, par exemple. Bon, ce sont ça, les acides gras polyinsaturés. Ils rentrent dans la constitution des lipides, c'est-à-dire ce qui compose toutes nos graisses. Donc ça, je vais vous en reparler. Donc, on a fait des essais de supplémentation en acides gras polyinsaturés, en certains acides gras polyinsaturés, sous forme de gélules. Mais là aussi, il n'y a pas eu de résultats très, très, très explicites. Et du coup, c'est pas forcément mis en avant. Voilà ce que... les quelques mots que j'avais à vous dire sur ce que vous pouvez lire et trouver. Parlez-en avec votre médecin. Je pense que c'est toujours intéressant. Il faut se poser des questions et donc en parler, mais attention. Alors, mon propos va être surtout sur mettre en avant l'équilibre alimentaire par rapport à quelles données, et puis comment avoir une alimentation la plus équilibrée, c'est-à-dire la plus variée, et comment doser les choses. Alors, pourquoi un équilibre alimentaire ? L'équilibre alimentaire, ça contribue à beaucoup de choses. Donc, j'ai mis en avant ce qui pouvait être en rapport avec la maladie. Donc, ça va contribuer à limiter la fonte musculaire. La fonte musculaire, c'est physiologique et ça explique, ça contribue au vieillissement, si vous voulez. Donc, c'est le vieillissement naturel. Quand on vieillit, on perd petit à petit sa fonte musculaire. Mais dans la maladie, la fonte musculaire, là, peut être un petit peu plus accélérée. Donc, limiter la fonte musculaire, c'est limiter l'ostéoporose. Donc, l'ostéoporose, c'est la perte de densité osseuse, si vous voulez. On se décalcifie, hein, pour dire les choses simplement. Limiter la fatigue. La fatigue, on vous en a parlé tout à l'heure. La fatigue est favorisée par la douleur. L'alimentation peut contribuer à limiter cette fatigue. Limiter le surpoids, puisque le surpoids peut favoriser les douleurs des articulations, notamment au niveau des genoux, et puis peut-être contribuer aussi à des destructions de cartilage. Et puis, cette alimentation peut limiter certains effets secondaires de tous les traitements que vous pouvez effectivement prendre, notamment des traitements qui baissent les défenses immunitaires, hein, les défenses de l'organisme. Ça peut être entre autres la cortisone qui contribue, mais il y a d'autres traitements aussi. Ces traitements peuvent favoriser les risques cardiovasculaires et puis peuvent pour certains aussi engendrer des troubles digestifs. Constipation, voire diarrhée ou autre. Alors, le principe de l'équilibre alimentaire, c'est apporter tous les nutriments indispensables au fonctionnement de l'organisme. Alors, vous avez plusieurs types de nutriments. Il y a ceux qui apportent l'énergie dont on a besoin. Donc, il y a les protéines qui apportent un peu d'énergie, mais qui surtout servent à fabriquer toutes les cellules de notre organisme. Donc, ce soit les cellules musculaires, osseuses, les globules rouges, enfin toutes nos cellules. Hein, on est constitué d'un ensemble de cellules. Apportent les lipides. Les lipides, c'est ce qui constitue les matières grasses. Et on retrouve les acides gras polyinsaturés. Apportent des glucides. Donc, les glucides ou les sucres, de façon plus vulgarisée, hein, c'est ce qui apporte notre carburant. Une voiture, ça avance avec de l'essence. Ben, nous, on avance en mangeant des aliments qui apportent des glucides. Alors, autre élément indispensable qui, eux, n'apportent pas d'énergie, mais qui sont, en gros, les boulons de notre organisme, c'est-à-dire qui, à la fois, constituent notre organisme et le font fonctionner, sont tous les minéraux, que ce soit le calcium pour les os, le magnésium, le fer, le zinc, et puis toutes les vitamines du groupe B, il y en a nombreuses, on va en parler de certaines, la vitamine C, les vitamines qu'on va trouver dans les corps gras, c'est-à-dire la vitamine A, la vitamine D et E. Et puis, autre élément qui sont les fibres, qui elles contribuent à un bon transit intestinal. Et puis de l'eau, on a besoin absolument d'eau pour renouveler l'eau qui constitue une grande partie de notre organisme. Alors, quelques points sur la fonte musculaire et l'ostéoporose. Alors, cette fonte musculaire, l'ostéoporose, peuvent être favorisées par l'inflammation, le manque d'activité. Il est bien évident que la douleur peut faire que l'activité est plus réduite. Hein, c'est automatique, j'allais dire. Donc, réduction d'activité peut favoriser. Il faut savoir que l'activité sportive, enfin sportive, physique, on va dire, aide à maintenir le muscle et la densité osseuse. Et puis, le traitement par cortisone peut aggraver cette fonte musculaire. Donc, alimentation équilibrée et puis une activité physique régulière lorsqu'elle est possible en fonction de vos possibilités et la moduler en fonction de vos capacités, bien sûr. Alors, je vais vous parler de protéines complètes. Les protéines, on va voir dans quels aliments on en trouve. Si on manque d'apport de protéines, ça va favoriser la fatigue, la fonte musculaire, comme on l'a dit. Et puis, ça peut diminuer l'immunité et puis rendre plus difficile la fabrication de globules rouges. Donc, vous voyez que ça intervient à un tas de niveaux. Par contre, l'excès d'apport, donc ça veut dire ni trop peu, ni trop... l'excès d'apport va favoriser la fuite de calcium qui peut majorer l'ostéoporose. Donc, ni peu, ni trop. Alors, les aliments qui apportent ces protéines dites complètes, c'est la viande, le poisson, les œufs, le lait et les produits laitiers, donc des aliments que vous connaissez, que vous consommez, je pense, sans doute régulièrement. Alors, je dis protéines complètes en parallèle avec les protéines dites incomplètes qu'on va trouver dans les produits végétaux, donc dans les céréales, notamment, type le pain, les pâtes, mais aussi les légumes secs, voire les légumineuses comme le soja. Alors la différence, c'est qu'on appelle les protéines de la viande des protéines complètes parce qu'elles apportent tous les éléments qui sont appelés des acides aminés indispensables à construire nos propres protéines de l'organisme, alors que les protéines végétales, elles, sont incomplètes parce qu'elles sont limitées en certains acides aminés indispensables à notre organisme et donc du coup vont être moins rentables. Par contre, elles vont contribuer à compléter nos apports, c'est-à-dire que nos apports protéiques se font en priorité par les protéines complètes d'origine animale et puis vont être complétées par les protéines végétales. Alors, par rapport à l'ostéoporose, l'importance, c'est l'apport en calcium. Alors, ce calcium se fait par deux tiers par les produits laitiers, donc le lait, yaourt, fromage, entremets. Là, je vous ai indiqué les fromages les plus riches, les plus concentrés en calcium sont les fromages à pâte pressée, les fromages à pâte dure tels que gruyère, comté, edam, les mentales. Alors que les fromages à pâte molle type camembert, fromage de chèvre vont être moins riches en calcium. Et ce calcium est relativement bien assimilé par la présence de phosphore, notamment il y a un bon équilibre entre calcium et phosphore dans les produits laitiers. Mais un tiers du calcium, ce qui n'est pas négligeable, est aussi apporté par les légumes, les fruits et puis l'eau de boisson. Et là je vous ai indiqué les eaux qui étaient les plus riches en calcium, qui sont l'Épare, Contrexéville, Taliance, Courmayeur. Donc les personnes qui mangent peu de produits laitiers peuvent éventuellement complémenter leur apport en calcium par ces eaux de boisson. Et il ne faut pas oublier dans le métabolisme du calcium que l'apport en vitamine D est très important, puisque c'est lui qui sert, c'est la vitamine qui sert à bien utiliser ce calcium et à bien le fixer. Alors cette vitamine D, il y a un apport alimentaire. Mais il ne faut pas oublier que notre peau est capable de fabriquer de la vitamine D. Et donc sortir tous les jours, profiter du rayonnement solaire est très important. Même s'il n'y a pas de soleil, les rayonnements vont faire fabriquer de la vitamine D à notre peau. Et puis, bon, la vitamine D dans les aliments, on les trouve dans les aliments plutôt gras, notamment les poissons gras, mais aussi les œufs, les abats et un peu dans la viande et les produits laitiers. Alors, je vais vous parler d'un autre risque et le rapport avec l'alimentation. Risque cardiovasculaire, bon, on en parle beaucoup, hein, puisque ce risque est présent pour toute personne qui vieillit. Elle est aussi importante avec la maladie, surtout en rapport avec les traitements que vous prenez qui peuvent majorer ce risque. Alors je vais vous citer et vous expliquer quels sont les aliments et pourquoi ces aliments sont intéressants. Alors il y a des éléments qui sont dits protecteurs. C'est ce qu'on appelle les antioxydants qui préviennent la destruction cellulaire et le vieillissement des cellules. C'est la vitamine C et la vitamine E. Donc la vitamine C, on va la trouver surtout dans les fruits, les agrumes notamment, et les légumes, et puis la vitamine E plutôt dans les, dans les huiles. C'est les folates. Alors les folates, c'est l'acide folique, c'est la vitamine B9 qu'on va trouver aussi dans les végétaux. C'est les stérols végétaux qu'on va trouver aussi dans les végétaux, dans les graines, et puis aussi dans les corps gras. Et puis les fibres végétales qui limitent notamment l'absorption du cholestérol et qui sont qui participent donc par ce biais-là à être antioxydantes, à protéger notre système vasculaire. Alors, les aliments qui sont mis en avant, ce sont les fruits et légumes. Ce sont les fruits gras. Alors, les fruits gras, c'est les noix, les noisettes, les olives. Et puis, ce sont les matières grasses végétales. Donc, quand on dit matières grasses végétales, ce sont principalement les huiles et les margarines végétales. Alors, on retrouve le terme que je vous ai employé tout à l'heure, les acides gras oméga-3. Donc, les acides gras oméga-3 sont des types de lipides, enfin d'acides gras, qui sont indispensables à l'organisme puisque l'organisme ne peut pas les fabriquer. Alors, ces acides gras ont une action anti-inflammatoire, y compris avec les acides gras oméga-6, qui sont un autre type d'acides gras indispensables à l'organisme. Ça veut dire que les corps gras sont indispensables au fonctionnement de notre organisme. Alors, ces acides gras essentiels, on les trouve dans les huiles, notamment, alors là c'est plus spécifique avec l'acide gras oméga 3, puisqu'on verra plus tard où on trouve les autres. Alors, l'acide gras oméga 3, on va surtout trouver dans l'huile de colza et l'huile de noix. C'est la raison pour laquelle on les préconise, parce qu'on découvre de jour en jour leur intérêt et qu'ils sont un peu plus mis en avant actuellement. Mais aussi, on en trouve dans les poissons, alors les poissons plutôt gras. Donc, les poissons gras, c'est le saumon, la sardine, le maquereau, le thon. Et puis les fruits gras, donc les noix, noisettes, olives. Donc voilà, donc ça peut expliquer en grande partie pourquoi il y a la promotion de fruits et légumes. Voilà un petit peu les raisons. Alors, on va voir un petit peu maintenant les aliments plus qui peuvent favoriser par contre les problèmes cardiovasculaires. Alors, ce n'est pas l'aliment en lui-même. Mais je tiens à préciser que c'est l'excès de ces aliments-là. Donc, on n'est pas, enfin, je ne vais pas parler de suppression d'aliments, mais plutôt de modération. C'est ça qui est important, hein, de ne pas oublier que c'est l'excès et non pas la suppression d'aliments qui règle les problèmes. Alors, l'excès de matières grasses saturées. Alors, les matières grasses saturées, ce sont d'autres types d'acides gras. On a vu les acides gras polyinsaturés. Et là, c'est les acides gras saturés. Ce sont les acides gras qui constituent les graisses des produits animaux qu'on va retrouver dans la viande, dans les produits laitiers. L'excès de sel qui peut favoriser l'hypertension, donc par là même les problèmes cardiovasculaires. Et puis les excès de sucre et produits sucrés. Excès de corps gras, excès de sucre et produits sucrés va favoriser les surpoids et donc par là même amener à des problèmes cardiovasculaires. Alors, les graisses saturées, on va les trouver dans le beurre, tout ce qui est animal. Donc le beurre, on peut mettre dans la même catégorie la crème fraîche. Le fromage, c'est le produit laitier le plus riche en corps gras. La charcuterie, c'est la viande. Qui est la préparation à base de viande la plus riche. Et puis, sans oublier, les pâtisseries qui sont faites avec des corps gras et du sucre, pâtisseries glaces. Alors là, il y a des fréquences, hein, beurre. Bon, manger du beurre tous les jours, c'est plutôt intéressant, puisqu'il y a de la vitamine A, il y a de la vitamine D, hein, donc c'est pas à supprimer, mais à limiter en quantité. Manger du fromage une fois par jour, c'est tout à fait normal, et on aurait grand tort de s'en priver, vu notre patrimoine culinaire. Et puis manger de la charcuterie, peut-être une fois par semaine, peut-être un peu moins pour certaines personnes. Ça fait partie aussi de tout ce qui est bon en France. Pâtisserie glace, le gâteau du dimanche ou le gâteau à l'occasion est bienvenu pour le plaisir, plaisir des sens et maintenir le moral. Alors, Par contre, je vais parler d'autres types d'huiles, alors qu'on ne trouve pas forcément sous forme d'huile, puisque les huiles qui sont riches en graisses saturées sont des huiles solides. Alors, on évitera l'huile de palme, on évitera l'huile de copra. L'huile de copra, c'est la végétaline. Et puis, les margarines papier. Alors, les margarines papier, je donne des marques quand même, parce que c'est quand même plus parlant. C'est les margarines Astra papier, qui effectivement sont un peu moins coûteuses, mais qui sont l'équivalent de beurre, si vous voulez, et encore sans vitamines, et donc qui sont riches dans ces graisses qui contribuent à fabriquer souvent des surplus de cholestérol. Voilà. Voilà un petit peu les données que je pouvais faire le lien avec le pourquoi manger telle chose. Maintenant, on va passer à une phase un petit peu plus pratique. Que devons-nous manger en réalité? Quelle fréquence et en quelle quantité? Et là, je m'appuie sur les recommandations du PNNS. Alors, le PNNS, c'est le Programme National Nutrition Santé qui a été mis en œuvre depuis les années 2000, depuis 2001, qui est reconduit depuis 2006. Donc là, c'est donc une politique volontaire qui prend en compte que l'alimentation la prise en compte de la nutrition et de l'alimentation est indispensable pour lutter et pour favoriser une bonne santé, lutter notamment contre les maladies cardiovasculaires. Alors, les aliments indispensables à privilégier, donc bon, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu plus précis. Alors, dans ce programme, et là, vous le voyez tous les jours ou régulièrement dans les médias, c'est augmenter la consommation de fruits et légumes, au moins 5 fruits et légumes par jour. Quand on dit au moins 5 fruits et légumes par jour, c'est des portions environ de 100 grammes. Donc, c'est un fruit, c'est une pomme, une poire, c'est 100 grammes de légumes. Voilà ce que ça veut dire. Augmenter la consommation de sucre complexe, de glucides complexes avec des pains et des féculents à chaque repas. Et puis, consommer suffisamment des produits laitiers. Donc, le programme nutritionnel et santé préconise 3 produits laitiers par jour. J'ai mis 3 à 5 produits laitiers par jour selon l'âge, puisque plus on vieillit, plus on a des risques d'ostéoporose et plus on a besoin de calcium. Et puis, 1 à 2 portions de viande ou poisson ou des œufs par jour. Donc ça, pour l'apport en protéines, comme on a vu tout à l'heure. Varier les matières grasses végétales, on va le voir plus en détail. Et puis, boire principalement de l'eau à volonté, au moins 1,5 litre par jour. Et puis, à consommer modérément pour le plaisir des sens, parce que ça fait partie, ça stimule nos papilles. Attention aux produits sucrés. Et puis, attention aux excès de sel. Alors, un petit peu plus en détail, au moins 5 fruits et légumes. Alors, que ce soit des légumes crus ou cuits, que ce soit des légumes frais, surgelés ou en conserve, ils ont tous leur valeur nutritive. Frais en préférant des fruits de saison. Il faut savoir que les fruits de saison sont beaucoup plus riches en vitamines que des fruits qui ne sont pas de saison, qui viennent de très loin, donc qui polluent pour venir jusqu'à nous. Et puis, 2 à 3 fruits par jour pour avoir notre capital de vitamines, notamment de vitamine C. Des pains et féculents à chaque repas, c'est l'énergie indispensable. Alors, j'ai rajouté, éventuellement, pour augmenter l'apport en fibres que nous apportent déjà les fruits et légumes, eh bien, on peut s'orienter vers des pains complets, des pains au son, des pains aux céréales, voire des céréales complètes. Et puis, sans oublier, des légumes qui sont parfois un petit peu dévalorisés, sont les légumes secs. Alors, les légumes secs, c'est les haricots blancs, les lentilles, les pois cassés, une fois par semaine. C'est une bonne source à la fois de fibres, d'antioxydants, de minéraux aussi. Alors, les 3 à 5 produits laitiers, 3 produits laitiers si on est un adulte jeune. Si on est un adulte moins jeune, eh bien, surtout chez la femme à partir de 55 ans, où les risques d'ostéoporose sont majorés, ça va être plutôt 4 produits laitiers, voire 5 produits laitiers. Alors, c'est sous forme de lait, de laitage. Alors, plutôt des laitages pas en dessous de 20% de matière grasse, tout ce qui est produit laitier complètement écrémé, on enlève toutes les vitamines A et D, donc sont moins intéressants sur le plan nutritionnel. Et puis, manger du fromage une fois par jour. Une à deux portions de viande, poisson ou des œufs. Alors, quand on dit viande, que ce soit la viande blanche ou la viande rouge, elles ont les mêmes valeurs nutritives. Les poissons, les fruits de mer, les œufs. Et 100 grammes de viande sont équivalents à 100 grammes de poisson et c'est équivalent à 2 œufs. Et puis le poisson est riche en acides gras polyinsaturés, donc à privilégier 2 à 3 fois par semaine si c'est possible. Les œufs, ça peut être 4 fois par semaine. La charcuterie, on a vu une fois par semaine. Et puis les abats, ne pas les oublier, ils sont très riches, et notamment le foie en vitamine D, en minéraux en général, en folate aussi, une fois tous les 15 jours, pourquoi pas. Alors, bien choisir les matières grasses. Alors, je vous ai dit, je rappelle, du beurre tous les jours, au petit déjeuner par exemple, et puis environ 3 cuillères à soupe d'huile, c'est indispensable. Alors, c'est indispensable pour apporter alors un autre type d'acide gras dont je n'ai pas parlé, les acides gras monoinsaturés. Alors, c'est des termes un peu barbares, mais c'est des choses que maintenant vous pouvez trouver facilement, donc j'essaye de vous expliquer. Alors, ces acides gras monoinsaturés ont un effet bénéfique pour notamment faire baisser le taux de cholestérol quand il est trop important, mais maintenir le bon cholestérol. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles l'huile d'olive a été très mise en avant et qu'on a voulu mettre tous les Français à l'huile d'olive, et qu'on veut toujours mettre tous les Français à l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive est très riche dans ce type d'acide gras, mais l'huile de colza aussi, et puis il y a l'huile d'arachide. Donc si on n'aime pas l'huile d'olive par son goût, eh bien on peut très bien compenser par l'huile de colza, avoir l'huile d'arachide. La différence, c'est que l'huile de colza ne se fait pas chauffer, elle n'est pas très stable à la chaleur, alors que l'huile d'olive et l'huile d'arachide sont des huiles stables à la chaleur. Alors on va retrouver nos acides gras qui, eux, sont indispensables parce que pas fabriqués, dans l'organisme. Il faut savoir que le lait maternel en contient et que les laits maternisés sont enrichis dans ces deux types d'acides gras. Alors, pour vous faire voir l'importance, notamment pour la croissance, mais pour l'organisme en général. Alors, on retrouve les oméga 6. Alors, les oméga 6 vont surtout être retrouvés dans l'huile de tournesol et l'huile de maïs, mais aussi dans l'huile de noix, dans l'huile de pépins de raisin et de soja. Alors, l'huile de tournesol et de maïs, ça se fait chauffer. L'huile de noix, ça se fait pas chauffer. Pour les oméga 3, eh ben, on retrouve donc l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile de soja. Colza et noix ne se faisant pas chauffer. Voilà, donc varier les huiles de manière à avoir éventuellement deux types d'huile qui peut être tournesol et colza, puisque avec tournesol et colza, vous avez les trois types d'acides gras, par exemple. Alors, quelques mises en garde. Évidemment, attention à l'alcool, 2 à 3 verres de vin par jour, un apéritif par semaine. Et puis, quand c'est possible, favoriser au mieux l'activité physique. Et le programme vous dit quotidiennement, éventuellement, 30 minutes de marche, quand c'est bien sûr encore possible, par jour. Ah, là, j'ai eu un problème d'animation. Alors, je termine mon propos en vous parlant un petit peu de l'alimentation dans le cadre d'un traitement par corticoïdes, donc par cortisone. Donc, les effets secondaires, je vous en ai déjà parlé, c'est la fonte musculaire et la décalcification. Et puis, la rétention d'eau, surtout à forte dose, voire des risques de diabète, des risques de troubles du taux de sucre dans le sang, surtout à forte dose. Alors, je répète, suffisamment de protéines et de calcium pour limiter la fonte musculaire. Et puis, là, deux cas de figure. Si les doses de cortisone sont supérieures à 15 mg à plus de 15 mg, on limitera le sel et le sucre. Par contre, si vous avez des doses d'entretien, des doses de traitement en dessous de 15 mg, ce sera une alimentation exclusivement peu salée. Donc, l'alimentation peu salée, c'est l'alimentation que l'on préconise dans l'alimentation équilibrée, donc pour toute personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une alimentation peu salée? C'est une cuisine modérément salée, en utilisant le plus possible les condiments, les herbes, les épices qui vont donner de la saveur à notre cuisine. Et puis, ne pas ajouter de sel dans l'assiette. Et puis, pour ne pas avoir trop de sel, eh bien, on retrouve les indications. Attention au fromage, c'est une source de sel importante. Une part de fromage par jour. Être vigilant au niveau de la consommation de charcuterie de fruits mers, qui sont des sources de sel pas négligeables. Donc, charcuterie une fois par semaine, éventuellement fruits de mer une fois par semaine. Et puis, autre source de sel qui sont très importantes, sont tous les plats cuisinés du commerce, que ce soit dans les conserves, dans les sauces, les potages du commerce, tout ce qui est plat traiteur, les olives, les chips. Et puis attention à certaines eaux minérales qui peuvent être riches en sel, sont des eaux gazeuses. Et le repère sur les bouteilles d'eau, c'est quand l'eau contient plus de 50 mg de sodium. On peut considérer que c'est une eau assez riche en sel. Et vous avez comme exemple l'eau de Vichy qui est très riche en sel et l'eau de Badois qui ne sont pas des eaux à consommer de façon courante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une alimentation modérée en sucre, que ce soit pour limiter le poids ou pour ne pas prendre de poids, et dans le cadre d'une corticothérapie qui parfois augmente un petit peu l'appétit? C'est limiter le sucre et les produits sucrés, ce n'est pas forcément les supprimer, mais limiter la consommation, notamment attention aux boissons sucrées. Les laitages sucrés, en consommer, mais varier aussi éventuellement avec des laitages qui soient moins sucrés ou nature. Et puis pâtisserie ou glace, une fois par semaine. Donc, eau nature ou des eaux aromatisées, vous trouvez des eaux aromatisées qui sont moins sucrées, voire des boissons light si vous êtes très friand des sodas. Et puis, laitage nature ou peu sucré, en variant, pour varier avec les laitages du commerce qui, eux, sont très sucrés. Voilà, je termine. Que pour bien manger, c'est pas si difficile, puisqu'on a à disposition un petit peu tout ce qu'il faut. Dans nos grands hypermarchés. Donc, selon les recommandations du PNNS, alors, il n'y a pas d'aliments parfaits, comme vous avez pu voir, mais il n'y a pas non plus d'aliments mauvais pour la santé. Chaque jour, chaque aliment a sa place, en jouant la variété, en jouant sur les quantités, bien sûr, et puis la fréquence, c'est ça qui fait l'équilibre. Donc, pour l'équilibre nutritionnel, puis aussi pour le plaisir des sens de nos papilles. L'excès est toujours préjudiciable. Voilà. Alors, voilà la fiche qui a été faite dans le cadre de ce programme national nutrition et santé. Vous avez dans vos pochettes des petits livrets qui ont été faits de façon assez ludique. Alors, il y a eu deux types de livrets distribués. Le livret vert, c'est l'alimentation équilibrée selon des profils. Je ne fais pas de cuisine, donc comment je peux manger équilibré, donc c'est assez ludique. Et puis, il y a des livrets qui sont d'une autre couleur, qui sont où on retrouve les mêmes messages, mais qui sont orientation pour les personnes à plus de 55 ans. Voilà les deux types de livrets que j'ai mis à disposition. J'ai d'autres livrets qui sont à disposition, que je n'ai pas distribués, que je pourrais mettre tout à l'heure sur la table. Ce sont des livrets pour les aidants, pour les personnes âgées, pour les personnes que ça peut intéresser. Voilà, merci de votre attention.
Donc, merci pour cette grande entrevue de la diététique. Donc, j'avais souhaité qu'on dise un mot, même si c'est pour l'éluder assez vite, des régimes soi-disant pour la polyarthrite que vous trouverez sur Internet ou même en librairie, puisqu'il y a un livre du régime signalé. Donc là, je laisse la parole à la salle s'il y en a qui ont des questions à poser.
J'ai vers vous, monsieur.
Merci madame, bonjour messieurs, dames. Vous avez dit tout à l'heure que les travaux du docteur Seignalé n'ont pas été validés. Alors, cette remarque m'interpelle parce que, à ma connaissance, ils se sont déroulés en milieu hospitalier, ils ont duré plus de 10 ans. J'ai un petit peu creusé, moi, pour en savoir plus. J'ai mis un contact avec le docteur Seignalé avant son décès et j'ai cru comprendre que des publications scientifiques avaient été faites, que des éminences médicales avaient appuyé ces publications. Alors, je ne comprends pas très bien parce que ces travaux ont été faits sérieusement, comme j'ai dit tout à l'heure, en milieu hospitalier, sur des quantités de malades importantes où ils n'ont pas été validés. Mais là, je ne sais pas où se place la vérité.
Alors, je vais me permettre de répondre parce qu'il se trouve que je me suis pas mal renseignée sur le régime signalé, puis c'est une question que les diététiciens ne connaissent pas aussi bien que nous. En fait, si vous voulez, d'abord, une chose, c'est très dur de valider un traitement, on va dire, diététique, puisque vous ne pouvez pas avoir un traitement...
Une chimie alimentaire, en fait.
Oui. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui, pour valider un traitement, quel qu'il soit, en médecine, vous faites des études qu'on appelle contre placebo. C'est-à-dire que vous donnez un médicament et puis vous donnez rien à côté et vous voyez ce qui se passe, d'accord ? Mmh. Avec l'alimentation, c'est forcément très difficile de faire du placebo de l'alimentation. Enfin, vous imaginez, il faudrait que vous mangiez quelque chose qui ressemble à une carotte et qui ne soit pas de la carotte. Donc, ce n'est pas constructible comme ça. Les seuls régimes, du coup, qui ont pu être validés par comparaison, ce sont les régimes qu'on appelle de diète hydrique, qui étaient... vous buviez soit de l'eau avec des choses en plus, donc il y avait un comparateur, et on regardait un petit peu ce que ça faisait sur la poussée à très court terme, puisque c'était un régime où on ne buvait que de l'eau, mais de l'eau avec de l'eau toute seule ou de l'eau plus des minéraux. Sur ces études-là, il a été montré que le jeûne, donc quand on prenait vraiment que de l'eau, était bénéfique pour l'inflammation, mais comme il vous a été dit, le jeûne n'est pas tenable très longtemps. Donc, M. Seignalé n'a pas pu faire d'études comparatives, parce que M. Seignalé, il ne pouvait pas faire un régime de type Seignalé et un régime de type Seignalé placebo. Ce n'était pas possible. Et forcément, la personne qui mangeait était au courant de ce qu'elle mangeait, si elle était sous régime ou pas, et il n'y avait pas de comparateur. Donc, il a fait ce qu'on appelle une étude ouverte. Alors, ça se fait des études ouvertes. Hein. On fait des fois, parce qu'on ne peut pas faire de comparateur. En médecine, on fait aussi des études dites ouvertes, où tout le monde est au courant. Alors, c'est moins bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire, quand on sait qu'on prend la chose qui est censée vous améliorer, il y a un effet placebo. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans ces résultats publiés sur Internet, parce que dans la revue du rhumatisme, il avait voulu les envoyer, mais je crois que ça n'a jamais été accepté. Dans ces résultats publiés, il avait des chiffres de l'ordre, alors sur Internet, je ne me souviens plus très bien, les chiffres donnés, de 80 à 90% d'efficacité. Comme j'explique aux malades quand ils viennent me voir en disant « je prends le régime Seignalé, qu'est-ce que vous en pensez ?» Si vous voulez, c'est comme les élections russes à une certaine période. Il y avait 90% qui votaient pour le président de la République. Tout le monde se disait « il y a quelque chose derrière ». Là, la communauté scientifique rhumatologique n'a pas considéré valide ces résultats à cause de ça. Maintenant, je ne dis pas que le régime Seignalé ne marche pas. Je dis qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est pas mal de patients qui nous disent « moi, je le suis et je vais mieux ». Hein. Le problème, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas de patients qui me disent « moi, je le suis et je vais mieux et je ne prends que ça ». C'est-à-dire que les patients qui suivent le régime Seignalé, j'en ai pas mal qui sont sous biothérapie bon, ou sous traitement autre. Donc, c'est très difficile de connaître l'efficacité réelle d'un tel régime. Voilà.
Merci.
Merci. D'autres interventions sur autour de l'alimentation ? Devant. Vous voulez une question ? Non ? Pardon, excusez-moi.
Bon, donc on va passer à l'ergothérapie avec Élodie Guédon qui est au Centre Hospitalo-Universitaire de Poitiers et qui va donc nous parler de l'apport de l'ergothérapie dans la polyarthrite rhumatoïde.
Bonjour. Donc d'abord, je voudrais m'excuser parce qu'on va travailler sur un ancien diaporama parce que le nouveau n'a pas pu fonctionner, mais on va s'en sortir quand même. Donc alors, moi, je vais vous parler de l'intervention en ergothérapie concernant des personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Donc comme l'ergothérapie est une discipline qui est peu connue, je vais quand même faire un petit rappel sur qu'est-ce que l'ergothérapie. Alors, c'est une discipline de rééducation et de réadaptation qui s'adresse à toute personne présentant un handicap. Donc, elle a pour but d'amener la personne au meilleur de ses capacités fonctionnelles pour un maximum d'autonomie dans son environnement. Donc ça peut être l'environnement familial, l'environnement professionnel ou l'environnement architectural. Donc, on intervient sur prescription médicale. Et l'ergothérapie vient du grec ergon, qui signifie thérapie par l'activité, par l'agir. C'est important de le dire parce que la rééducation, ça va orienter la rééducation, c'est-à-dire qu'on va porter une rééducation qui peut être motrice, cognitive ou sensitive, mais par l'intermédiaire d'activités manuelles, par exemple, donc en faisant de la menuiserie, de la vannerie, de la poterie, ou des activités, des jeux du solitaire, enfin des jeux de société, ou des mises en situation, comme une activité cuisine ou autre, enfin des activités concrètes du quotidien. Donc, et c'est aussi une partie réadaptation, où là, ça va être plutôt dans la vie quotidienne, où on va essayer d'adapter l'environnement à la personne pour qu'elle puisse conserver un maximum d'autonomie. Donc, on va partir de bilans initiaux qui nous permettent d'avoir une vision globale et personnalisée de chaque patient afin d'axer la prise en charge, c'est-à-dire d'adapter la prise en charge en fonction des habitudes de vie de la personne. C'est vrai qu'on ne va pas voir de la même manière une mère de famille qui est secrétaire, par exemple, qu'un monsieur qui est retraité et qui fait beaucoup de jardinage. Ça va orienter, nous, nos objectifs. Voilà. Alors, concernant la polyarthrite rhumatoïde, donc on va plutôt intervenir sur des patients qui répondent plus difficilement à des traitements de fond. On va avoir la même prise en charge selon la période inflammatoire qui est très douloureuse et la période de rémission. Donc voilà, où on va être plus dans l'activité, alors que la période inflammatoire, on va plutôt chercher un confort. Toujours dans l'objectif d'optimiser, bien sûr, les possibilités fonctionnelles. Alors, ça peut être des mobilisations passives, actives ou autopassives, c'est-à-dire que ça peut être un dérouillage articulaire, en général, donc plus le matin, comme parlait le docteur Azaïs tout à l'heure, où c'était une difficulté à dérouiller le dérouillage matinal, ou des exercices plutôt, ce que j'entends, analytiques, où on va s'attacher plutôt à faire travailler une articulation, voire deux articulations, allant dans le sens contraire des déformations. Donc ça va être, par exemple, on va demander à la personne de se mettre en bout de table et de relever le poignet plusieurs fois de suite en faisant attention à garder le majeur dans l'axe de l'avant-bras, et des exercices globaux. Donc bien sûr, ces mobilisations, elles doivent toujours être douces et infradouloureuses. Alors, du fait de la polyarthrite rhumatoïde, les articulations vont être instables, ce qui va favoriser des déformations lors de contraintes exercées sur ces articulations. Donc, on associe très souvent l'ergothérapie plutôt à la thérapie au niveau de la main, mais ce n'est pas le cas, c'est plus que dans la vie quotidienne, c'est quand même les mains qui sont quand même plus sollicitées, donc plus vulnérables. Donc c'est vrai que nous, on va plutôt s'attacher à l'éducation gestuelle au niveau des préhensions. Donc l'éducation gestuelle, elle a pour but de prévenir les déformations. Elle consiste, donc on va conseiller la personne, déjà on va essayer de lui montrer quels sont les gestes nocifs, afin qu'elle puisse les repérer et puis après les éviter dans ses activités de vie quotidienne. Donc les gestes nocifs, ça peut être dévisser le bouchon d'une bouteille, tourner une clé, qui sont des préhensions fines et qui demandent de la force. Donc on peut entraîner des déformations de type coup de vent cubital, comme on a vu en première partie, ou des coups de vent de subluxation au niveau des articulations. On va essayer d'apprendre aussi à sélectionner les bonnes positions de repos et d'apprendre à la personne à continuer ses activités de vie quotidienne, sa vie de tous les jours, mais en intégrant ses gestes, ses bons gestes dans la vie quotidienne, c'est-à-dire en limitant les contraintes articulaires. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident et ça demande un investissement important de la personne et c'est vraiment une contrainte au quotidien. Donc c'est aussi important de rencontrer régulièrement la personne pour amener petit à petit des conseils et pas avoir tout d'un seul coup où c'est pas possible de tout faire dans le quotidien correctement tout de suite. Alors, l'ergothérapeute peut aussi confectionner des attelles. Donc il existe deux types d'attelles. Il existe des attelles de repos qui vont là comme le nom l'indique, être plus utilisé soit pendant la nuit, soit en regardant la télévision, où là, on va mettre la main en position de repos afin de prévenir les attitudes vicieuses. Mais on a aussi des attelles de fonction qui vont là plutôt permettre de suppléer ou d'aider à une fonction déficiente. Donc, c'est des attelles qu'on va utiliser, par exemple, pour écrire ou pour éplucher les légumes, pour faire la cuisine, enfin des activités vraiment en situation concrète. Donc les attelles de repos, j'en ai emmené une là en exemple, pour bien montrer qu'on essaye du... Maintenant, il y a eu quand même des progrès au niveau du matériau. On essaye d'utiliser des matériaux qui sont quand même de plus en plus légers, parce que l'objectif, ce n'est pas de rajouter des contraintes supplémentaires au niveau des articulations, de l'épaule ou du coude, par exemple. Donc ça, c'est important. Et puis d'avoir du matériau aussi aéré pour éviter tout ce qui est transpiration, ce qui permet quand même un peu plus de confort. C'est vrai qu'on va essayer de viser, même si c'est toujours contraignant comme appareillage, d'essayer que ce soit le plus confortable, entre guillemets, possible, pour que ce soit porté. Donc voilà. Et on va... Alors, souvent la question que j'ai, c'est « Ah, oh, mais c'est bizarre, j'ai pas... Ma main, elle n'est pas plate, elle n'est pas moulée dans un truc, une attelle plate. » Et oui, parce qu'une main, physiologiquement, en repos, ben, elle n'est pas plate. Le pouce, il n'est pas dans le plan des autres doigts pour garder toujours une main qui soit fonctionnelle. On va aussi essayer de respecter à ce que le majeur soit toujours dans l'axe de l'avant-bras, parce que c'est ce qui permet d'avoir une force à nos préhensions. Voilà. Donc, bien sûr, ces attelles, elles doivent être refaites régulièrement parce que le matériau, il s'use, parce que là aussi, la personne évolue et qu'elles ne sont pas adaptées. On n'a pas une attelle à vie. Ça se refait et ça évolue aussi avec la personne. Alors, en général, c'est vrai que je donne un protocole de port avec l'attelle. Quand c'est un renouvellement d'attelle et que la personne gère bien son appareillage et qu'elle le connaît, j'en donne plus. Mais au début, c'est vrai qu'il y a des conditions à respecter. C'est sûr que si l'attelle est posée sur le radiateur, ça ne va pas lui plaire. Et puis, il y a aussi au niveau du port, on va déterminer avec la personne à quel moment elle peut porter son attelle, voir un peu comment c'est gérable dans son quotidien. Donc, voilà. Alors, voici une petite photo. Donc, pour bien montrer qu'en fait, on part d'une plaque. On fait notre patron à partir des prises de mesure qu'on va avoir sur la main. On va tremper notre plaque dans l'eau chaude et on le moule ensuite sur la personne. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est chaleur, le stocker derrière la vitre sur la plage arrière de la voiture, ça n'aime pas non plus. Donc, voilà. Alors, l'ergothérapeute peut aussi apporter des conseils en aide technique ou adapter des objets du quotidien. Donc, il y a plusieurs exemples d'aides techniques. C'est vrai qu'en général, on conseille beaucoup l'ouvre-bouteille, parce que ça, c'est vrai que bon, c'est une prise qui demande beaucoup de force, qui est utilisée quand même tous les jours. Donc, on a des petites aides, comme par exemple cette ouvre-bouteille, qui est un exemple parmi d'autres, où là, on va pouvoir le faire en utilisant une prise globale et plus limitée sur le bout des doigts. Donc, ça demande quand même beaucoup moins de force. On peut aussi utiliser comme ces grossisseurs de manches qu'on a en différentes longueurs, en différents diamètres, qu'on coupe selon la longueur qu'on a besoin, qu'on peut adapter sur la brosse à dents, sur un crayon, pour justement, toujours dans le même objectif, de grossir l'appréhension et du coup de diminuer les contraintes articulaires. Mais on a aussi alors la pince à long manche, qui va permettre de ramasser des objets au sol sans qu'on sollicite les articulations des membres inférieurs. Voilà. Bon, j'ai emmené les petites aides que je rencontrais le plus souvent par rapport aux patients ayant une polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Mais bon, on peut aussi transformer, voilà, comme on disait, des couverts, les clés. En général, ça se fait souvent, les clés de voiture, pour grossir un petit peu. Parce que souvent, après, on me dit « Ah oui, mais j'arrive plus à tourner la clé. » Alors qu'après, ça ne me pose pas de soucis pour conduire. Donc bon, voilà, c'est des petites choses C'est vrai que ça, on cible vraiment en fonction de la personne, et c'est là que c'est important au début de cibler les habitudes de vie de chacun et quoi apporter. Concernant les conseils en aide technique, ah bah voilà. Donc des petits exemples de fichiers avec ce qu'on peut retrouver qui sont très parlants. On pourrait faire passer, ouais. Si ça. Merci. C'est encore mieux. J'ai pas pu tout emmener, donc comme ça on a la panoplie. Donc j'ai emmené quelques photos quand même. Donc voilà un autre exemple d'ouvre-pot, où là on voit bien que la main, elle est, c'est une préhension de type global. On a aussi, voilà, ce qu'on peut trouver, des tourne-clés. Donc toujours la main en bonne position. Alors là, c'est plutôt du bricolage maison, ça arrive. Donc là, c'est une adaptation concernant un coupe-ongle. Ça permet d'appuyer avec la paume de la main et plus entre le pouce et l'index. Ça, je le rencontre assez. C'est vrai que c'est souvent une des difficultés, couper les ongles. On ne trouve pas toujours de solution. Mais c'est souvent une question qui revient. Alors, concernant les aides techniques, surtout, n'hésitez pas à essayer, c'est très important, parce que ça paraît toujours bien sur la photo, et après on arrive à la maison, et puis on se dit, ah bah oui, mais finalement, c'est utilisable que pour ça, et puis ça, moi, c'était pour autre chose que... Enfin, on se fait toujours des idées, et puis ça ne correspond pas toujours à ce qu'on nous a dit. Donc, très important d'essayer, que ce soit avec l'ergothérapeute, mais on n'a pas toute la panoplie, ou chez les magasins de revente de matériel médical. Pas hésiter à leur demander, parce qu'ils ne vous le proposent pas de manière spontanée. Mais normalement, il y a la possibilité. Et qui ne sert à rien d'en avoir tout un stock dans les placards. Vaut mieux des fois en avoir moins, mais bien les sélectionner et puis les utiliser. C'est vrai que des fois, on se dit « Ah, ben ça, ce serait pas mal, ça aussi », puis on en a une dizaine. Mais finalement, souvent, on ne se sert pas des 10. Donc ça, c'est important. On peut aussi vous conseiller sur les aides au déplacement. Alors, il existe toute une panoplie d'aides au déplacement. Et c'est vrai que ça peut être important de se faire guider par rapport à ça. Faut pas hésiter. Donc, voilà, concernant donc, tout ce qui est déambulateur ou fauteuil roulant manuel ou les cannes. Alors, faut savoir aussi que les aides techniques, malheureusement, ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Et comme c'est du matériel spécialisé, c'est souvent du matériel qui est un petit peu coûteux. Mais pour les aides au déplacement, par contre, il y a une prise en charge, donc qui peut être soit totale, soit partielle, selon l'aide au déplacement. Donc c'est pour ça que c'est important de bien sélectionner au départ quelles sont les aides techniques qui vont vraiment servir. Donc l'ergothérapeute peut aussi se déplacer à votre domicile pour conseiller sur des aménagements ou voir un petit peu comment le logement peut être adapté à la personne. Donc il va regarder comment la personne peut accéder à son domicile, si elle a accès à la salle de bain, les robinets, si elle peut prendre sa douche toute seule et en sécurité. Ça peut être aussi la circulation intérieure du logement. Donc voilà. Ça, c'est important aussi parce que faut pas hésiter à demander, même si c'est des choses qui semblent bénignes. On se dit, oh non, mais c'est bon, je vais faire comme ça, et puis ça ira. Et souvent, quelques années après, on entend, bah oui, on avait fait des travaux, et puis ça correspond plus. Maintenant, on n'a plus envie d'y mettre financièrement. Bon, ça coûte toujours cher de faire des travaux. Donc, vaut mieux se faire conseiller avant aussi que de refaire après, dans quelques années, et se rendre compte que ça convient plus. Donc voilà. Alors ça, c'est des petits aménagements possibles au niveau de la baignoire. Donc j'ai pris cette photo parce que la planche de bain est quand même revient assez souvent. Ça permet quand même d'accéder à la baignoire sans faire de travaux importants. C'est un matériel qui est peu coûteux, environ 30 euros. Mais au moins, ça permet à la personne de s'asseoir sur le bord de la baignoire. Alors, la planche de bain, que je monte parce que je parle. Mais... Alors, je ne suis pas trop douée, moi. D'accord. Alors la planche de bain, la voici. Donc on s'assoit et on bascule les jambes. Alors par contre, on ne peut plus prendre de bain, c'est sous forme de douche. Et en général, celle-ci, elle n'est pas idéale parce qu'il y a normalement, elle est percée pour pouvoir permettre l'écoulement de l'eau. Donc c'est vrai que ça permet quand même une certaine sécurité dans l'accès à la baignoire. Mais bon, il existe plein d'autres choses, et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais comme je disais, ça, c'est à voir en fonction de ce que la personne peut faire et de l'environnement. Alors, avant la conclusion, ce que je voulais dire, c'est que les ergothérapeutes, où est-ce qu'on les rencontre ? Donc, surtout en milieu hospitalier. Il y en a deux en libéral dans le département, donc qui sont sur Poitiers. Mais là, il y a un problème. C'est vrai que le souci de l'ergothérapie en libéral, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Il y en a, mais après demande de recours. Donc ça demande un temps un petit peu plus long avant d'avoir le remboursement. Et vous pouvez aussi en rencontrer aussi à l'association des paralysés de France, enfin d'autres associations concernant la polyarthrite rhumatoïde et dans les maisons départementales des personnes handicapées. Donc les maisons départementales des personnes handicapées, c'est assez récent. C'est une seule maison où la personne fait un dossier pour avoir des aides financières, matérielles ou des aides humaines. Avant, il y avait plusieurs dossiers à déposer à différents endroits, comme à la Cotorep, plusieurs organismes. Maintenant, c'est regroupé sous un seul organisme. Donc au niveau de la durée, c'est pas forcément plus efficace encore. Mais c'est bon de savoir qu'on peut s'adresser à ces maisons pour aider à financer certains projets concernant surtout le logement où les coûts sont assez importants. Et là, vous pouvez rencontrer des ergothérapeutes qui peuvent vous conseiller sur l'aménagement. Donc voilà. Donc c'est vrai que l'accompagnement en ergothérapie est souvent en individuel, mais il peut se faire en groupe aussi. Et c'est important qu'il commence précocement dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure concernant l'éducation gestuelle, c'est vrai que plus on se voit régulièrement et tôt, ça permet d'apporter des choses petit à petit et d'adapter en fonction de l'évolution des besoins. Donc voilà. Si vous avez des questions...
Bonjour, je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde et j'ai beaucoup de difficultés justement avec mes mains. Bon, suite à un départ de canal carpien, que j'ai été opérée des deux mains, et j'ai jamais récupéré, suivi que la polyarthrite, s'est emmêlée là-dedans et j'arrive pas à m'en sortir. Alors j'ai un côté polyarthritique de tout l'ensemble général qui s'améliore, mais les mains, non. Alors j'aurais voulu savoir, parce que je suis quand même une personne assez active et j'adore faire du vélo. Quand je vous entends proposer, vous connaissez bien les prothèses que vous avez, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il existe des maintiens très souples pour maintenir justement les doigts pour pouvoir tenir la poignée et freiner? C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'il existe quelque chose justement pour aider?
Alors, il en existe dans le commerce, donc des souples qui permettent d'avoir accès, enfin de laisser libre accès aux mains et aux doigts et aux pouces, pardon. Donc après, ça, c'est vrai que c'est à utiliser en situation, voir si ça peut aider, si vraiment c'est ça qui correspond.
Non, je vous ai posé la question parce que comme il y a beaucoup de matières, si vous voulez, les attelles de genoux, on fait beaucoup, et tout ça, j'ai pensé à ces matières-là, j'ai dit peut-être qu'il y a...
Oui, voilà, ça demande... Voilà, c'est pour ça que c'est plus savoir en situation.
Alors, c'est ce que vous conseillez, oui.
Oui.
C'est un système à adapter, ça, en fait.
D'accord.
Est-ce qu'il y a quelqu'un voilà. Oui, qu'il y a une autre question là-bas.
Merci.
Pas ta modelée et rétropédale.
Pardon. Alors, l'autre question. Merci.
Bonjour, je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde et malheureusement de l'ostéoporose en même temps. Et je refais du vélo, je refais du sport. Et par contre, quand j'ai malheureusement pas possibilité de baisser comme on voudrait, n'est-ce pas, Madame Solo, la cortisone, qui en ce moment, je me suis réduite à 7 et alors là, je pousse des cris de douleur parce que j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, je lutte, je vais essayer quand même. Parce qu'on a prévu au mois de janvier, il faut que j'y arrive. Donc voilà. Et par contre, quand j'ai mal, je porte des prothèses la nuit pour les bras, les jambes. Et ce sont des prothèses de repos. Je ne savais pas qu'on pouvait les renouveler parce que c'est vrai qu'elles sont un petit peu vieilles. Mais je les aime bien parce que je sais que si je fais pendant deux nuits ou un soir, eh bien le lendemain, je n'ai pas de problème pour me lever, pour remarcher, chose que je ne pouvais pratiquement plus faire. Et puis au point de vue main, eh bien je m'entraîne, je fais beaucoup de peinture, j'essaye de faire de la sculpture. Et dès que il y a des jours où je peux pas m'habiller, où je ne peux pas faire mes légumes épluchés ou tout, mais j'ai un mari qui est super bricoleur. Alors eh bien, on se serre les coudes et on se fait plein de choses de façon à ce que je puisse être active au maximum. De dire que j'ai pas mal, c'est pas vrai, mais je crois qu'il y a plein de choses encore à faire. Malheureusement, moi, c'est la cortisone qui me joue des tours, donc je vais faire avec. Mais j'espère vous revoir, parce que pour les prothèses, j'aimerais voir possibilité. Et le malheur, c'est que dès que je marche, j'ai beaucoup de crampes. Des crampes. Je ne vais pas très loin, mais ça ne fait rien, j'insiste, on verra. Merci.
Bonjour, moi j'ai une spondylarthrite ankylosante. J'ai juste une question pratique en fait. Je cours après une pince à long manche depuis un certain nombre de temps et j'en trouve nulle part.
D'accord. Alors les pinces à long manche, on en trouve dans tous les magasins de matériel médical, donc Harmonie Medical Service, District Club Médical, Mais alors par contre, il en existe de toutes sortes. Et comme tout, bah, y en a des biens et des pas biens. C'est vrai que ça dépend pourquoi exactement vous en avez besoin, parce qu'il y en a, ça va être plutôt pour des objets petits et très légers, d'autres des diamètres un petit peu plus importants. Ouais. Donc c'est quand même là, c'est important d'essayer et de bien cibler sur quoi vous voulez, enfin pourquoi vous voulez l'utiliser.
D'accord.
Donc voilà. Mais après, moi j'en ai quelques. Vous êtes suivi dans le service de rhumato.
Oui.
D'accord. Donc après, y a possibilité aussi qu'on se rencontre. Moi, j'en ai quelques-unes que je peux vous faire essayer s'il n'y a pas la possibilité d'aller dans ces magasins-là.
D'accord. De toute façon, il faut que je reprenne rendez-vous parce que les derniers anti-inflammatoires, je ne les ai pas supportés. C'est une info D'accord. pour le docteur Solo.
Bonjour, moi je suis atteinte d'une polyarthrite BBS, une BBS polyarthritique plus ou moins. Et j'ai en ce moment une attelle, plus particulièrement pour le poignet gauche, qu'on trouve dans le commerce, enfin non, pas dans le commerce, en pharmacie uniquement. Est-ce que ça convient tout à fait à, comme vous dites, au repos et tout ça? Parce que moi je le porte la nuit, la journée, là j'ai voulu faire la belle, mais voilà quoi, je vois pas de résultat.
D'accord. Alors, une attelle, on voit si elle est bien adaptée ou pas à la personne. Déjà, s'il y a des rougeurs, si ça crée des douleurs.
Ça crée pas de douleur, mais la douleur D'accord. est toujours là, quoi, on va dire.
D'accord. Ça vous repose pas la main ?
Non.
D'accord.
J'ai la mobilité au niveau des mains, des doigts, plus ou moins, mais le poignet reste fixe.
D'accord.
Mais la douleur aussi.
On n'arrive pas toujours à faire diminuer la douleur, mais ça me semble important quand même de... À moins qu'elle vous gêne, et enfin, faudrait... Je ne vois pas la telle, alors je ne sais pas. Je ne peux pas trop vous dire si ça va ou pas, c'est vrai. Mais... Ouais, je sais pas. Mais oui, sans voir, c'est un peu difficile, mais...
C'est pas une sur-mesure, en tout cas. C'est
d'accord.
Qu'on trouve en pharmacie, voilà.
Bah, c'est vrai que quand on les trouve en pharmacie, bah, c'est pour tout le monde. Bon, la main, elle est un petit peu comme on a vu tout à l'heure. Bon, bah, avec des articulations un peu gonflées. Donc, c'est sûr que, en général, avec le matériau, on le moule directement sur la personne. Donc, ça va prendre un petit peu toutes ses formes. Et c'est à vous, quoi. C'est adapté à votre main et... Donc c'est vrai que bon, c'est quand même mieux le sur-mesure. Après, je sais pas si ça répondrait vraiment, si j'arrive. Enfin, c'est pas sûr que ça vous soulage, même avec l'autre attelle. Je peux pas m'engager là-dessus.
Merci.
Ouais,
je voudrais faire une simple intervention concernant les aides éventuelles. Alors, elles sont liées très souvent au degré de, au pourcentage de handicap, mais je vous invite quand même à en faire, surtout les aides pour l'amélioration du logement, et notamment salle de bain. Je vous invite quand même à les faire parce que tant qu'on ne les fait pas, on ne sait pas si on a une réponse positive ou négative. Alors, je vous invite à les faire parce que dans bien des cas, ils en donnent un petit peu quand même. Et si vous avez l'occasion de passer par Nice, je vous invite à visiter l'hôpital Larcher à Nice. Et l'hôpital Larcher à Nice, ils ont aménagé un logement spécifique pour polyarthritique. Et il est visible par tous les malades. Il suffit d'être malade, même pas tous les clients qui veulent le voir peuvent le voir. Alors si vous allez, profitez de l'occasion et ça vous donnera une idée véritable de ce qu'il faudrait mettre chez vous pour que vous soyez bien. Voilà.
Merci bien. Bon, on va passer donc à une partie qui est... à la fois, enfin, qui est très importante, et puis on va essayer quand même de rester dans les temps. Donc, je ne pourrais pas tout dire sur les traitements. Déjà, je me suis limitée aux traitements médicamenteux. Je n'ai pas fait traitement chirurgical ou traitement type infiltration. Ensuite, bon, je vois que dans l'assistance, il y a quand même beaucoup de gens atteints. Donc, j'ai été assez précise. Je pense que ça ne vous gênera pas trop, puisque nombre d'entre vous prenez déjà les traitements, donc savez de quoi un petit peu je vais parler. Hein. Donc déjà, la première chose, c'est quel objectif pour un traitement. C'est-à-dire, on met un traitement dans la polyarthrite rhumatoïde, quel objectif. Donc c'est assez simple, puisqu'on vous a parlé des manifestations de la maladie. Le premier objectif du traitement, c'est d'enlever la douleur, en tout cas de la diminuer. Donc je parlais de diminution, on parlera de retrait après. Mais le premier objectif, c'est de diminuer la douleur. Alors c'est pas un objectif, je dis premier, deuxième, troisième, c'est pas un ordre chronologique. Hein. C'est un ordre logique de raisonnement, mais évidemment, on veut faire... tout ensemble. Donc, on veut diminuer la douleur, on veut diminuer l'inflammation. Donc, diminuer l'inflammation, c'est quoi? C'est diminuer la raideur matinale, diminuer ce qu'on appelle, nous, les synovites, c'est-à-dire les gonflements, pour ceux qui en ont, diminuer aussi l'inflammation biologique, la vitesse d'alimentation et la CRP. La biologie, c'est très important, mais c'est la clinique en premier, donc des fois, les gens nous disent « Regardez ma VS », je dis « Attendez, je regarde d'abord la clinique, après je regarde la VS ». Donc, on essaye de faire l'ensemble, la clinique, la biologie, mais le premier, c'est quand même la clinique. Ensuite, maintenant, depuis qu'on a des traitements plus efficaces, on essaye au maximum de diminuer la destruction, ce qui nécessitera, on vous demande de réaliser des radios régulières, même si vous allez bien, parce qu'on veut diminuer la destruction, donc il faut faire une surveillance radiologique. Alors, si on était un petit peu plus ambitieux, diminuer la douleur, c'est bien, diminuer les synovites, c'est bien, mais on pourrait se dire... Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus de maladie. Donc ça s'appelle la rémission. Alors je le dis volontairement parce que souvent, les polyarthrites débutantes, quand elles arrivent, comme elles ne savent pas encore bien comment ça se passe, c'est leur rêve. Enfin, forcément, elles espèrent sortir de la consultation et qu'on leur dise, ben voilà, je vais vous donner ça, et puis dans 3 semaines, il n'y aura plus rien, et puis on se reverra pour se dire bonjour. Bon, très vite, on leur dit que le traitement qu'on donne, il va être là pour, comme je dis, diminuer douleur, synovite, hein, pour calmer la maladie, pour voir... Mais la rémission est maintenant quelque chose qu'on essaye d'obtenir. Mais enfin, la rémission n'est pas la guérison, d'ailleurs, parce que le malade qui rêve, c'est vraiment la guérison. La guérison, on ne sait pas faire. Pourquoi on ne sait pas faire la guérison? Parce qu'on ne sait pas à quoi est due la maladie. Il n'y a pas beaucoup de maladies qu'on sait guérir en médecine. Hein. Quand vous voyez les hypertendus, les patients qui ont de la tension artérielle, ils prennent un médicament, ils le prennent toute leur vie. S'ils arrêtent le médicament... Eh ben, leur tension, elle remonte. Ça veut bien dire que ce n'est pas guérir l'hypertension artérielle. Le diabétique, il va prendre des médicaments tout le temps. Donc il y a énormément de maladies pour lesquelles on n'est pas capable de guérir. Alors, on guérit quoi? On guérit des choses chirurgicalement, par exemple l'appendicite, on enlève l'appendice et puis après il n'y a plus d'appendicite, ou on guérit des choses infectieuses, parce que là on connaît, si vous avez une angine, c'est un microbe, le microbe on sait le tuer avec des antibiotiques, vous allez avoir un traitement qui va durer peu de temps et vous n'allez plus avoir d'angine. La polyarthrite rhumatoïde, le problème c'est qu'on ne sait pas la cause, donc on ne peut pas aller détruire la cause puisqu'on ne la connaît pas. Par contre, ce qu'on connaît mieux, si on ne connaît pas la cause, c'est tout ce qui se passe après le début. Et donc, on agit avec les médicaments sur la suite, mais on n'arrive pas à agir sur le bouton déclencheur. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas guérir la polyarthrite, ça faut le dire. On sait maintenant la mettre en rémission pour certains malades, mais quand on regarde un petit peu les chiffres de rémission dans une population standard, c'est à peu près 30% des patients qu'on arrive à mettre en rémission. Il reste quand même 70% des patients qu'on n'arrive pas à mettre en rémission. Donc la rémission, ça veut dire qu'il n'y a plus de douleur, qu'il n'y a plus de synovite, qu'il n'y a plus de syndrome inflammatoire biologique, qu'il n'y a pas de progression radiologique. Et normalement, ça veut aussi dire qu'il n'y a plus de fatigue, en sachant que la fatigue, c'est clairement le symptôme qui est le plus difficile à enlever. Et ça aussi, on voit fréquemment des patients qui me disent « ça va, mais je suis toujours fatiguée ». Et la fatigue, c'est normalement soit l'inflammation, il y a probablement parfois une part de traitement, donc la fatigue, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, beaucoup de communication sur la polyarthrite rhumatoïde nous dit qu'il faut mettre toutes les PR en rémission. Vous avez entendu dans la salle quelques témoignages. C'est très dur de mettre toutes les polyarthrites rhumatoïdes en rémission. Ceci dit, on mettra un bémol à ça. Celles qui vont très bien, ce n'est pas toujours celles qui viennent à ce genre de réunion. Donc, quel type de traitement ? Alors, je vais vous les expliquer, mais vous les connaissez pour ceux qui les reçoivent. Donc, on a ce qu'on appelle les traitements dits symptomatiques. Symptomatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui est contre le symptôme. Le symptôme, c'est ce qu'on ressent. Hein. Donc, dans les traitements dits symptomatiques, il y a ce qu'on appelle les antalgiques, les traitements contre la douleur. Donc, les antalgiques, c'est le traitement contre le symptôme douleur. Le plus connu, c'est le paracétamol. Alors, je ne vous ai pas mis volontairement, je n'ai pas fait d'erreur, mais j'ai essayé de ne pas mettre de noms commerciaux parce que je n'ai pas le droit. Donc, ça fait des mots intenables, mais je ne suis pas là pour faire la promotion de tel ou tel médicament. Hein. Je suis là pour vous expliquer un peu les classes de thérapeutiques. Et puis, comment on s'en sert. Donc, pour la douleur, on a pas mal de choses. On a entendu de la morphine tout à l'heure. Donc, en fait, on part du paracétamol pour aller jusqu'à la morphine, en passant par ce qu'on appelle, nous, les paliers 2, c'est-à-dire intermédiaires. C'est souvent paracétamol plus autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que la morphine ne marche pas très bien dans la polyarthrite rhumatoïde, parce que sinon, ça pourrait être assez simple. On dirait, bon, on n'a pas le traitement vraiment curatif, on ne sait pas très bien traiter, mais on peut au moins enlever les douleurs par les morphiniques. On le fait déjà depuis pas si longtemps que ça, on va dire, parce qu'au début, moi, où j'ai commencé en tout cas, on essayait pratiquement jamais la morphine dans la polyarthrite. Et puis, c'était suite à un de nos ministres de la Santé qui avait dit « plus aucun Français doit souffrir ». Enfin, c'était peut-être un peu résumé, mais c'était presque ça. Où on a utilisé la morphine de façon beaucoup plus large. Et on l'a utilisée donc, dans des indications qu'elle n'avait pas. Donc, on a essayé de la proposer à des patients qui avaient des maladies chroniques douloureuses. Mais on sait très bien que ça marche pas aussi bien qu'on ne le voudrait, en tout cas. Sinon, la morphine pourrait être une solution à la douleur quand les patients sont plus inflammatoires et restent douloureux. Ce n'est pas toujours la bonne solution. Les anti-inflammatoires, donc, c'est contre l'inflammation, hein, c'est contre le symptôme de l'inflammation, donc ça reste du traitement dit symptomatique. Il y en a de deux sortes. Quand on parle bien vite en consultation et on vous dit « vous avez quoi comme AINS ?» et qu'au début, on nous regarde un peu bizarre. Donc, c'est l'anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est-à-dire, alors là, je vais vous dire des noms commerciaux pour ceux qui en ont, pour qu'ils s'y retrouvent. Donc, Voltaren, Biprofénide, Felden et tutti quanti, parce qu'il y en a une petite cinquantaine. Si on dit anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est parce qu'il y a des anti-inflammatoires stéroïdiens que sont les corticoïdes, la cortisone, que j'aime pas, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est pas que j'aime pas la cortisone. Hein. J'aime bien la cortisone, mais j'aime pas ses effets secondaires. Donc ensuite, à côté du traitement symptomatique, il y a le traitement dit de fond. Alors, le traitement de fond s'oppose au traitement symptomatique parce qu'il est là, pas vraiment curatif, puisque je vous dis qu'on ne peut pas traiter de façon, on ne peut pas guérir la maladie, mais enfin en tout cas il est là, il a été fabriqué et il est donné pour ralentir l'évolution de la maladie et on espère un jour stopper l'évolution de la maladie. Alors, il y a les anciens, hein, puisque je vois qu'il y a des patients qui ont une polyarthrite depuis un moment. L'allocrisine ou les sels d'or ont eu leurs heures de gloire, puisque ça a commencé à être prescrit en 1950 à peu près. Et c'est pratiquement plus prescrit depuis les années 2000, parce qu'il y a beaucoup d'autres traitements à notre disposition et qu'ils n'étaient pas toujours très bien tolérés. Mais ils ont eu, enfin, en tout cas, ils ont rendu service à beaucoup de monde à leur époque. Donc la dépénicillamine, c'est Trolovol, Acadione. Enfin, ça, c'est des traitements qu'on n'utilise pratiquement plus depuis l'arrivée des nouveaux. Ce qu'on appelle les traitements de fond conventionnels, un mot ou alors, un petit peu bizarre, mais enfin, les traitements de fond conventionnels, c'est les traitements qui sont prescrits, qui se donnent d'abord par la bouche, donc les médecins, ils disent péros, qui s'avalent, qui ne sont pas injectables, qui sont assez anciens quand même, puisque méthotrexate ou Novatrex, c'est 1985, les flunomides ou Arava, c'est déjà un peu plus récent, c'est les années 2000, salazopyrine aussi, c'est ancien. Alors on les appelle conventionnels parce que ça ne fait pas partie des nouveaux médicaments, on va dire. Là, je vous ai cité donc les trois les plus fréquemment prescrits. Ensuite, donc, il y a ce qu'on appelle les biothérapies. À l'heure du bio, les biothérapies ne sont pas bio. Hein. Les biothérapies, ça veut dire biologique. Enfin, c'est pour biologique. Et en fait, c'est les traitements qui ont été faits en ciblant, en prenant une cible biologique de la maladie. On vous a dit que la maladie est une maladie auto-immune. Donc, il y a toute une cascade immunitaire. Je ne vous ai pas mis là, le petit laïus qu'on fait d'habitude sur la physiopathologie qui prendrait largement 20 minutes à lui tout seul. Mais on sait qu'il y a des éléments qu'on appelle des cytokines, des cellules qu'on appelle des lymphocytes, qui sont impliqués dans la maladie. Et l'industrie pharmaceutique et les recherches qui ont porté sur la maladie ont essayé de cibler ces éléments. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que, comme on vous a dit tout à l'heure, c'est plurifactoriel, la polyarthrite rhumatoïde. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs. Et notamment, quand vous voyez la cascade immunologique, des fois, ça fait des diapositives très, très, très chargées. On a du mal à s'y retrouver parce qu'il y a énormément d'éléments en cause, énormément de cytokines en cause. Et ce qu'on a constaté avec ces biothérapies, c'est que même s'il y a beaucoup d'éléments en cause, le fait d'en arrêter un, eh bien, ça perturbe toute cette cascade et ça suffit pour la plupart des patients à traiter leur maladie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'agir sur toutes les cytokines ou sur toutes les cellules en même temps, mais on peut agir sur une seule et ça peut suffire. Donc les premières biothérapies à arriver sur le marché, c'était 2001 pour le premier anti-TNF. Ce sont les anti-TNF-alpha. Donc l'anti-TNF bloque le TNF qui est une des cytokines qui est responsable de la destruction articulaire. Donc je vous ai cité les trois. Alors la caractéristique des biothérapies, c'est que ce sont des thérapies ciblées biologiquement. Et l'autre caractéristique aujourd'hui, demain je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est que c'est que du traitement injectable. C'est-à-dire que soit ça se fait en perfusion à l'hôpital, soit ça se fait en piqûre sous-cutanée, mais ça ne s'avale pas. Et deuxième autre importante caractéristique, même si moi je n'interviendrai pas là-dessus, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Mais bon, ça, à la limite, ce n'est pas le problème du médecin qui est prescripteur. Donc les anti-TNF-alpha, il y en a trois. Maintenant, on a quand même pas mal de recul avec ces molécules et on les emploie quand même de plus en plus. On les a employés au départ, surtout dans les polyarthrites rhumatoïdes très sévères. Et maintenant, on les emploie dans les polyarthrites rhumatoïdes moins sévères. Mais vous verrez, je vous ai mis un petit peu quel traitement pour qui par la suite. À part les anti-TNF, il y a en même temps est sorti un anti-IL-1 qui a pas très bon, c'est pas qu'il n'a pas bonne presse, mais qui a moins marché. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti en même temps que les anti-TNF et qu'il a une efficacité qui est un peu moins importante. Donc on le prescrit plus en contre-indiqué quand les autres sont contre-indiqués. Il s'appelle Anakinra ou Kineret et il a un autre désavantage, c'est qu'il s'injecte tous les jours. Donc c'est un petit peu contraignant. Les deux dernières qui sont citées, donc le rituximab et l'abatacept, sont des biothérapies qui sont plus récentes. Le premier donc, a eu son autorisation de mise sur le marché, donc on a pu l'utiliser réellement en septembre 2006, et l'abatacept en septembre 2007. Donc les deux derniers sont en intraveineux avec des modalités différentes de prescription que je ne détaillerai pas. Alors quel traitement pour qui ? Alors d'abord, le traitement, il est curatif, c'est-à-dire le but, enfin curatif plus ou moins, il n'entraîne pas la guérison, mais le but donc c'est de diminuer l'activité de la maladie, mais il n'y a pas de traitement préventif. Donc ça, je tenais à le dire là, parce que parfois, il y a des patients qui me disent « Mais ma fille, si ça tombe, elle va avoir une polyarthrite. Est-ce que je ne peux pas faire des tests pour savoir si elle va en avoir une ? Et s'il y a des tests qui fonctionnent, est-ce qu'on ne peut pas lui donner un traitement avant qu'elle ait la maladie ?» Non. Il n'y a pas de traitement préventif de l'apparition de la maladie. Mais, alors j'ai mis un mais, parce qu'aujourd'hui, comme vous a dit le docteur Azaïs tout à l'heure, on traite quand même les gens parfois avant qu'ils aient le diagnostic réel de polyarthrite rhumatoïde. Donc on leur dit, vous avez une polyarthrite. Je ne peux pas dire que c'est une polyarthrite rhumatoïde parce qu'il n'y a pas les éléments nécessaires pour le dire, mais je sais que c'est une polyarthrite qui va durer, en tout cas qui a une bonne chance de durer et probablement de se transformer en polyarthrite rhumatoïde ou d'évoluer vers. Et donc je vais vous donner un traitement comme si vous aviez une polyarthrite rhumatoïde. Ce que d'autres ont pu entendre comme discours des fois, c'est dire, bah, je ne peux pas savoir si vous avez une polyarthrite rhumatoïde, un rhumatisme psoriasique ou une spondylarthrite à forme périphérique. Donc, entre les trois, je ne sais pas. Mais quelque part, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que le traitement initial, ça va être le même. Et que pour éviter que vous ayez, que vous développez plus vite des choses irréversibles, on va vous traiter tout de suite. Donc il n'y a pas de traitement préventif, mais il y a des traitements par rapport à il y a 10 ans, beaucoup plus précoces. Avant, il y a donc un peu plus de 10 ans, on disait, avant de débuter un traitement de polyarthrite rhumatoïde, il faut être sûr qu'on ait la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Donc pas de traitement préventif, mais un traitement de plus en plus précoce, mais il faut au moins des symptômes. C'est-à-dire, si la personne n'a pas de maladie, c'est clair qu'on ne traitera pas pour éviter l'apparition d'eux. Alors, un petit peu plus compliqué, j'espère pas trop compliqué quand même, quel traitement pour qui ? Donc ça, c'est notre travail à nous, c'est très individuel le traitement, pour ça qu'on évite dans ces manifestations-là, on essaye de vous donner le plus d'informations possible, mais on évite de faire des consultations à la minute, puisque vous doutez bien qu'en une minute de réponse, on ne peut pas dire aux gens, vous, c'est ce traitement-là, vous, c'est ce traitement-là. C'est inimaginable. Donc, on évitera les questions trop personnelles, en tout cas en public, juste après. Donc là, j'essaie de vous brosser un peu le tableau, de savoir comment on est dirigé pour traiter les patients, mais en sachant qu'après, c'est très, très individuel, en fonction de tas de paramètres que je ne peux pas détailler. Le traitement symptomatique, ça va être forcément dès les premiers symptômes. Et nous, en tant que rhumatologues, le plus souvent, quand on vient nous voir en disant « Ah ben voilà, mon médecin traitant suspecte que j'ai une polyarthrite rhumatoïde ou pas rhumatoïde », il a déjà, le patient, des antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils lui en sont déjà prescrits et souvent il en a même déjà eu plusieurs. Donc ça, on n'a pas besoin du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde pour le donner. Les corticoïdes. Donc les corticoïdes, je vous ai mis les recommandations en dessous de l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations pour la polyarthrite rhumatoïde, qui sont d'ailleurs visibles, je pense, par tous, sur le site de l'HAS, qui nous donnent un petit peu, qui homogénisent, on va dire, la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde sur un plan national. Alors bien sûr, ça ne nous donne aucune obligation, c'est-à-dire ça nous donne, vous verrez parce que je vous en ai mis plusieurs schémas, ça nous donne des orientations, mais c'est des choses qui ont été discutées bien sûr avec plein de gens qui s'occupent de polyarthrite rhumatoïde. Ça donne des orientations et on fait quand même ce qu'on veut en consultation avec le malade qu'on a en face, et bien sûr ça met aussi plein de bémols par rapport, on dit c'est bien de faire ça mais des fois on peut pas le faire. Donc pourquoi la corticothérapie, on essaye, bon, j'ai mis le moins possible, le moins longtemps possible. La corticothérapie, ça peut être très utile en cure courte, ça peut être utile au début de la maladie. Le gros problème de la corticothérapie, c'est ses effets secondaires à long terme, qui sont donc l'ostéoporose, les problèmes cardiovasculaires, le diabète éventuel, l'hypertension artérielle. Donc on connaît vraiment les problèmes de la corticothérapie aujourd'hui, et avant on n'avait pas le choix, on avait 2-3 traitements de polyarthrite, on était obligé d'utiliser une corticothérapie. Aujourd'hui, on a d'autres traitements à notre disposition qui fait qu'on a des indications de traitement, d'utiliser des traitements de fond quand les gens ont ce qu'on appelle une corticodépendance, c'est-à-dire quand ils ne peuvent pas se passer de corticoïdes. D'où ce que j'ai dû faire avec la personne qui a témoigné, c'est que quand les gens ont une corticothérapie, alors surtout quand ils ont une ostéoporose associée, je propose une diminution progressive. Bon, généralement, je dis si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, quand on se reverra, on en discutera. Je ne suis pas stacanoviste pour baisser la corticothérapie. Donc généralement, on la fait baisser très très doucement parce qu'on ne peut pas l'arrêter d'emblée, bien sûr, milligramme par milligramme, en essayant d'avoir ce qu'on appelle la dose minimale efficace, c'est-à-dire la plus petite dose qu'on peut garder. Et si on ne peut pas s'en passer et qu'on a d'autres possibilités de traitement de fond, eh bien, il vous sera proposé d'essayer un autre traitement de fond pour arriver à se passer de la cortisone, parce qu'encore une fois, et surtout quand on a déjà un effet secondaire de la corticothérapie, on ne souhaite pas la maintenir sur le long terme. Donc le message de la cortisone, c'est ça peut servir, ça peut être utile, mais le moins possible, le plus longtemps possible, le moins possible, le moins longtemps possible. Et quand personnellement je communique auprès des médecins généralistes, je leur demande de ne pas en mettre. Parce que quand elle est mise, on a un mal fou à s'en passer. Donc, quand elle est démarrée, on a un mal fou à l'enlever, même en utilisant des fois d'autres traitements de fond. Donc, on préfère essayer, si possible encore, et en fonction du cas, se débrouiller sans, maintenant qu'on a des traitements de fond plus efficaces et plus nombreux qu'avant. Alors là, bon, vous ne regardez pas si ça vous semble trop fouillu et vous m'écoutez parce que c'est un peu fouillu. Ça, c'est extrait encore des recommandations de l'HAS et ça répond à la question quel traitement pour qui en premier traitement. Donc, j'ai entouré en rouge les traitements que je vous ai cités tout à l'heure. Hein. En fait, c'est les trois traitements de référence. Clairement, le traitement qui est le plus fréquemment donné en première intention, c'est avant même que quelqu'un ait eu un traitement de fond, c'est le méthotrexate ou Novatrex. Néanmoins, on peut tout à fait utiliser les autres traitements de référence dans certaines indications que sont le leflunomide et la salazopyrine. On est sur les traitements conventionnels dont je vous avais parlé tout à l'heure. Je ne détaillerai pas plus cette diapositive. Après échec de méthotrexate, on a aussi des recommandations de l'HAS qui nous disent bah, ça dépend. Alors là, je vous ai mis une des plaques, mais en fait, il y a plein de possibilités quand on a un échec de méthotrexate parce que ça dépend énormément de l'activité de la maladie. C'est-à-dire, est-ce que il y a un échec au méthotrexate, mais il n'y a pas de destruction articulaire. Il y a un échec au méthotrexate, mais il y a très peu de synovite. À ce moment-là, c'est la plaque d'ici. On peut essayer un autre traitement de fond conventionnel. Ou alors, autre scénario, il y a un échec au méthotrexate et la polyarthrite ne va pas bien du tout, du tout. Ou il y a une progression radiologique. Et là, on s'orientera parfois plus rapidement sur nos biothérapies. Et puis maintenant, bon, les biothérapies ont commencé par les anti-TNF. Donc, On a eu les premières années donc beaucoup de patients, mais on disait tout à l'heure, je disais tout à l'heure que le régime signalé, on n'y croyait pas parce qu'il publiait des résultats à 90% d'efficacité. Quand on fait des études, quel que soit le traitement, même le plus efficace, il nous semble, contre placebo, quand on atteint 70% d'efficacité, on est déjà très 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 content. Donc si 70% d'efficacité, ça veut dire que vous avez 30% de personnes qui ne vont pas répondre au traitement. Donc même avec les biothérapies, vous n'avez pas 100% d'efficacité avec les traitements. Ça... Alors pourquoi on n'a pas ? Eh bien encore une fois, parce que la maladie est plurifactorielle et que du coup, on n'a peut-être pas ciblé chez cette personne-là le bon. Ou alors c'est un de ceux qu'on devait cibler, mais ce n'est pas suffisant. Et encore plus, avec le temps, comme c'est une maladie auto-immune, il y a une adaptation de la maladie au traitement. Et on pense qu'il y a un détournement, en fait, un détournement de l'immunité quand il y a un médicament et qui fait parfois un médicament s'épuise parce qu'il y a un détournement de l'immunité. Ce qui nous permet aujourd'hui, le fait d'avoir d'autres biothérapies, nous permet de répondre à la question mais qu'est-ce qu'on fait des patients en échec d'anti-TNF, que ce soit en échec tout de suite ou en échec avec le temps. Et là, donc, on a les nouvelles molécules dont on dispose aujourd'hui, qui sont le rituximab et la abatacept. Alors, on peut faire aussi, certains peut-être dans la salle, on leur a proposé ce qu'on appelle un switch. C'est tout bêtement une rotation, pour parler français. Donc, on change d'anti-TNF. On peut aussi avoir cette possibilité-là. Alors, les nouveaux, hein, les nouveaux traitements, ça veut dire ceux qui ne sont pas encore sortis. Bon, je vous ai mis... C'est impossible à retenir comme nom, mais ça n'a aucune importance. Le message à retenir, c'est que d'autres traitements arrivent sur le marché, encore, ce qui est très rassurant pour nous, parce que ça veut dire que S'il y a adaptation, s'il y a échec, eh bien on aura d'autres possibilités. Et il y a d'autres anti-TNF, qui sont ceux que j'ai cités là en dessous, et d'autres biothérapies qui vont cibler encore d'autres molécules. Donc tout ça, c'est très rassurant pour les médecins et surtout pour les malades. Alors les réserves, évidemment, quand on voit ça, on dit bah alors, comment ça se fait ? Il y en a qui disent dans la salle, moi ça ne marche pas, moi je ne vais pas bien. J'ai pas que des malades en rémission dans la consultation, parce que je vous ai dit, on arrive à mettre en rémission que 30% des patients. Donc finalement, c'est pas, même si c'est beaucoup mieux qu'avant, c'est loin d'être parfait. Alors pourquoi c'est loin d'être parfait ? Bah parce que malheureusement, un médicament, ce n'est pas un placebo. Donc un médicament a une efficacité, mais il a malheureusement des effets secondaires potentiels qui parfois nous empêchent de les prescrire initialement parce que la personne n'a pas qu'une polyarthrite rhumatoïde, mais elle a d'autres maladies associées et on ne peut pas le prescrire. Ou qui nous oblige à l'arrêter en cours de route parce que les effets secondaires apparaissent. Et puis j'ai mis en deuxième, parce que ça je pense qu'il faut un petit peu aussi parler de ça, la peur des effets secondaires. J'ai eu quand même... on est de plus en plus interventionnel dans cette maladie. Et vraiment, les patients ne réagissent pas de la même manière face à la maladie et face à ce qui leur est proposé. On a des patients qui refusent les traitements. En tout, moi, je les propose. Nous, on est là pour proposer. On dit, voilà, vous avez ça, ça. Je pense qu'il serait bien qu'on fasse ça, et après on discute. Il y a des patients qui, parce que je suis obligée de leur dire, bah oui, mais la maladie va y avoir tels effets secondaires, me disent, non, moi, je préfère ma maladie aux effets secondaires. Alors, c'est très difficile de répondre à la question, faut-il préférer la maladie aux effets secondaires ? C'est très facile quand la maladie va très mal, parce que là, je suis peut-être un peu dirigiste, mais je leur dis que leur maladie a plus d'effets secondaires que les effets secondaires des traitements, puisqu'on sait que la polyarthrite rhumatoïde elle-même ne fait pas que détruire les articulations, mais elle a un risque cardiovasculaire, elle augmente même le risque de cancer quand l'inflammation n'est pas contrôlée. Donc on a des arguments assez forts quand la maladie va vraiment pas bien. Le plus difficile pour nous, c'est quand la maladie va pas assez bien à notre goût, parce qu'on voudrait qu'il n'y ait plus de synovite, plus d'inflammation, mais que le malade il se trouve beaucoup mieux qu'au début et qu'il n'a pas très très envie de changer de traitement. Donc des fois, la discussion, elle se fait là-dessus. Et finalement, si on n'a pas notre malade en rémission, c'est parce que lui, il dit, bah, écoutez, moi, je suis bien comme ça, je ne suis peut-être pas en rémission, mais je suis tellement mieux que je n'ai pas spécialement envie de reprendre un risque avec un traitement. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple parce qu'il y a aussi à gérer les nouveaux traitements, les effets secondaires potentiels. Et encore une fois, on est bien obligé d'en discuter en consultation. Donc, en conclusion, s'il y a, puisqu'on dit qu'on ne peut pas retenir tous les messages qui sont ingurgités au cours d'une réunion, il faut retenir quelques petites choses. Donc, un, le traitement de la polyarthrite doit être précoce. Et probablement, il serait bien de traiter toute polyarthrite avant qu'elle ne soit rhumatoïde. De nombreux traitements de fond sont à notre disposition pour permettre d'éviter la destruction articulaire et le handicap. Et clairement, ça doit être des traitements personnalisés. Il n'est pas possible, même si on a des recommandations HAS, de faire quelque chose de général. Voilà, je vous remercie.
J'arrive avec le micro. Il y a une question ? Non ? Oui ?
Ça marche ?
Oui.
Volontairement, vous n'avez pas parlé de la chirurgie. Et à quel moment peut intervenir la chirurgie ?
Alors, la chirurgie, elle nous est très utile dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a une chose très rassurante aussi, c'est qu'elle nous est de moins en moins utile. Donc, comme ça a été dit avant, j'ai travaillé à Lille pendant un certain nombre d'années et on avait un chirurgien qui faisait que de la polyarthrite rhumatoïde et qui, vers 2003, nous a dit « Mais c'est incroyable, vous m'envoyez plus jamais de poignets à opérer. » Surtout les mains, en fait, sont de moins en moins opérées aujourd'hui. Donc la chirurgie est encore utile. Aujourd'hui, la chirurgie, elle intervient essentiellement... Enfin, elle intervient à deux biais. Soit on fait ce qu'on appelle une synovectomie, c'est-à-dire qu'on enlève la synoviale. Ça, on le fait de moins en moins parce qu'aujourd'hui, les traitements qu'on a... arrive de plus en plus à enlever l'inflammation de la synoviale. Donc on le fait de moins en moins. Avant, les synovectomies de poignet, c'était quand même fait très très souvent. Après, il y a ce qu'on appelle les arthrodèses, c'est-à-dire la fusion de l'articulation. Ça, c'est proposé. Alors ça fait toujours peur quand on en parle aux patients en disant « mais elle va plus marcher du tout ». Mais en fait, quand elle est proposée, elle marche déjà plus du tout, enfin, ou quasi plus. Et elle est dans les petits mouvements qui lui restent, elle est douloureuse. Donc on explique aux patients que vaut mieux avoir zéro mouvement, surtout par exemple pour une cheville, on peut très bien marcher avec une tibiotarsienne qui a été arthrodésée. Par contre, s'il reste un tout petit peu de flexion-extension, mais qu'elle ne sert à rien, parce que dès qu'on engage la marche, c'est douloureux, ben voilà, là, c'est là l'indication de l'arthrodèse. C'est essentiellement donc pour la cheville, le tarse, éventuellement le poignet. Et puis après, il y a les prothèses qui servent aux genoux, à la hanche, aux épaules, aux coudes. Les prothèses des doigts, alors moi, les prothèses des doigts, je suis moins emballée, mais je sais qu'il y a des patients qui ont été très contents. Je suis moins emballée, pourquoi ? Parce que c'est de la toute petite prothèse et que j'ai vu au début, alors bon, après, je ne suis pas très bien encore à l'aise pour parler ici parce que je connais moins les chirurgiens de la Vienne, mais ce que j'avais vu initialement au début des petites prothèses des MCP, donc des articulations ici, c'est comme c'est petit, plus la prothèse est petite, plus elle a du mal à tenir. Et en fait, des fois, il y a des luxations de prothèses. Donc, encore une fois, aujourd'hui, comme on a pas mal de traitements de fond qui permettent d'améliorer la situation au niveau, au moins, inflammation. Alors, c'est vrai, quand on est complètement désaxé, mais quand on est complètement désaxé, pour tout réaxer au niveau tendineux et en mettant des prothèses, moi, je
c'est voilà. C'est trop tard.
Ben, oui, mais alors, par contre, mettre la prothèse trop tôt, c'est pas bien non plus. Donc, les prothèses digitales, j'ai clairement un peu de mal. Bon, on discute avec les chirurgiens, mais dans l'indication, je suis certainement plus parcimonieuse que pour les autres actes chirurgicaux.
Merci.
Je viens après.
Oui.
Notre fille de 35 ans est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde et elle a commencé il y a 5 semaines un traitement de Methotjec. Sur la notice explicative que j'ai lue, c'est vrai que c'est pas encourageant, mais on dit notamment qu'il faut être suivi fréquemment par le médecin généraliste. Elle est suivie par un rhumatologue, évidemment, mais quelle est la fréquence de ce suivi pour vous?
Bah, en fait, si vous voulez, quand on est Methotjec, c'est méthotrexate, hein, oui, donc c'est du méthotrexate injectable. Donc il y a de toute façon une prise de sang à faire initialement tous les 15 jours pendant les 3 premiers mois, puis après tous les mois. Donc déjà, c'est bien que le médecin traitant ait, voit la prise de sang, minimalement, ou le rhumatologue, mais il faut qu'il y ait un médecin qui la voit pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet secondaire qui se voit sur la prise de sang. D'accord. Après, je dirais que si vous voulez, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'une visite mensuelle chez le médecin généraliste peut être souhaitable, mais ça dépend beaucoup de comment va la polyarthrite. Quand les polyarthrites rhumatoïdes sont en rémission, elles ne vont pas tous les mois chez les médecins traitants, sauf si elles ont d'autres pathologies associées. D'accord. Donc après, c'est très dépendant de la personne, de ses pathologies associées et de la manière dont elle va au moment dit. Il y a peut-être des fois où elle ira tous les mois et puis après, elle ira moins souvent. Quoi.
C'est selon le besoin, en fait.
Voilà.
Comment ça ? Merci, madame.
Merci. Quand on oppose les phases de rémission ou période de poussée, est-ce que les tests Wallerose et latex pompe également suivent le...
Alors, le test de Wallerose et latex, c'est les tests de facteurs rhumatoïdes qui permettent le diagnostic, entre autres. Ils ne sont utiles qu'au début. Ils ne servent à rien après. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a une partie des polyarthrites rhumatoïdes, les plus nombreux, qui va être positif, on va dire, au bout d'un an à peu près, hein, parce que ce n'est pas positif tout de suite, qui va se positiver dans la première année et qui restera positif tout le long de la vie avec des taux variables, mais les taux ne nous servent pas pour l'évolution de la maladie. Il y a des polyarthrites rhumatoïdes qui vont rester ce qu'on appelle séronégatives, c'est-à-dire le facteur rhumatoïde va être négatif tout le long de la maladie. Et il y a des polyarthrites rhumatoïdes où ça va être une fois positif, une fois négatif, une fois positif. Mais encore une fois, ça dépendra des fois un peu des traitements, parce qu'il y a des traitements qui négativent le facteur rhumatoïde, mais ça ne nous sert à rien, nous, c'est pas utile pour adapter le traitement. Donc quand je vois des fois sur les prises de sang que le médecin traitant a redemandé un facteur rhumatoïde, je dis toujours dans le courrier que c'est pas la peine. La seule raison pour laquelle on le redemande, c'est s'il a été négatif initialement, qu'on a toujours un doute sur la nature rhumatoïde de la polyarthrite. Et à ce moment-là, on va le redemander une deuxième fois.
Oui, je suis derrière vous. Attendez. 5h moins le quart. Oui, on n'a pas parlé de la polyarthrite juvénile. J'ai une petite fille qui a déclaré ça. Elle n'avait pas tout à fait 7 ans l'année dernière. Bon, après... Le diagnostic a été long à poser. Mmh. Elle est sous MTX depuis quelques mois et elle semble en rémission. Et je voulais savoir si cette rémission, est-ce que... Bon, moi, je me pose plusieurs questions. Est-ce qu'il y a un facteur psychologique qui peut entraîner la maladie et que si ce facteur psychologique disparaît, la rémission peut durer longtemps ou être définitive?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. D'abord, je vous remercie de me la poser parce que l'arthrite juvénile idiopathique, on l'appelle comme ça, la polyarthrite de l'enfant, on l'appelle l'arthrite juvénile idiopathique. C'est un des sujets qui intéresse Poitiers puisqu'on vient de créer une consultation de rhumatopédiatrie avec nos confrères les pédiatres pour prendre en charge ces patients. On n'en a pas parlé là parce qu'on ne peut pas parler de tout. Qu'il faut savoir que, fort heureusement, c'est quand même beaucoup plus rare l'arthrite juvénile idiopathique que la polyarthrite rhumatoïde. Pour vous dire, il y a à peu près 5000 cas en France, hein, 5 à 10 000, parce qu'on a du mal à les recenser, mais en tout cas, certainement pas plus de 10 000, alors qu'on est sur les 300 000 en polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est heureusement beaucoup moins fréquent. Après, donc, la question, est-ce qu'il y a une rémission qui peut être induite par un facteur psychologique et qu'elle peut durer ? Eh bien, ma réponse est je n'en sais absolument rien. On sait qu'il y a des facteurs psychologiques qui peuvent induire la maladie, d'accord ? Des facteurs psychologiques qui peuvent induire la rémission, c'est déjà beaucoup plus rare. Enfin, en tout cas, d'avoir été constaté. Ah oui, d'accord. La suppression du facteur. Bah oui, mais la suppression du facteur psychologique qui induit. Oh, c'est impossible de répondre à cette question. Je ne peux pas savoir. Je l'espère beaucoup, mais je ne peux pas savoir. Et puis après, si vous voulez, enfin, la nuance à ça, c'est que l'arthrite juvénile idiopathique, comme la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. Donc, il y a un facteur déclenchant qui peut être psychologique, mais une fois que c'est mis en route, c'est là où peut-être on peut répondre. Le rétropédalage, il n'existe, à mon avis, pas dans ce domaine. Si vous voulez. Une fois que c'est mis en route, c'est mis en route. Alors après, l'arthrite juvénile idiopathique, c'est complètement différent parce qu'il y a plein de formes. Si elle a une forme oligo-articulaire, les rémissions sont très fréquentes, prolongées. Voilà. Donc après, je ne peux pas répondre sur un cas comme ça parce que ça dépend beaucoup des formes. Et c'est vrai que chez l'enfant, peut-être plus que chez l'adulte, notamment, alors clairement sur les formes oligo-articulaires, on assiste à des rémissions plus fréquentes et beaucoup plus prolongées. Voilà. J'ai à peu près fait le tour.
J'arrive. Attendez.
Bon, moi, je voudrais porter mon témoignage à cette dame, puisque j'ai vu la polyarthrite enfant. On a pu détecter qu'elle avait commencé aux alentours de 7 ans. J'en ai souffert vraiment beaucoup à partir de l'âge de 10 ans. J'ai eu quelques séquelles. On m'a traitée essentiellement par cortisone à l'époque parce que la polyarthrite, on ne connaissait pas. Et j'ai eu une rémission totale de 16 à 23 ans. 23 ans, pourquoi ? Parce que c'est le moment où j'ai eu mon fils. Et à la suite du bouleversement hormonal, je pense, et bien cette polyarthrite a repris son cours. Donc la rémission, il faut y croire, puisque moi, je l'ai eue. Je l'ai eue de 16 à 23 ans, où vraiment, je n'ai plus du tout souffert, plus eu de déformation ni rien. J'avais les séquelles, quelques séquelles, minimes, mais c'était vraiment la rémission. Voilà.
Une question.
Alors, pardon.
On prendra peut-être la dernière question, parce qu'on est un petit peu
arrivé.
Alors, est-ce que la grossesse est favorable à la polyarthrite ? Et est-ce qu'il y a eu des cas où elle pouvait guérir ? Enfin, guérir, c'est un grand mot.
La grossesse est favorable à la polyarthrite, ça oui. Elle n'est pas favorable à toutes les polyarthrites. 50% des polyarthrites rhumatoïdes entreront en rémission pendant leur grossesse, on va dire, en tout cas auront une activité de la maladie bien moindre. Et l'explication, en fait, là, ce n'est pas tellement les hormones, c'est ce qu'on appelle la tolérance. Parce qu'une femme enceinte, elle héberge un corps étranger, qui est son enfant, puisque c'est un corps étranger. On ne se fait pas un clone, hein, donc il n'a pas les mêmes gènes que vous. Donc c'est un corps étranger. Et pour pouvoir accueillir ce corps étranger et ne pas le détruire, eh bien, son système immunitaire s'adapte. Cette adaptation du système immunitaire est favorable à la polyarthrite rhumatoïde dans 50% des cas, ou avec une bonne diminution des symptômes pendant la grossesse. Dans 25% des cas, ça sera identique. La polyarthrite rhumatoïde ne s'améliorera pas. Et dans 25% des cas, on aura plutôt une aggravation qui, en plus, sera surtout liée à l'arrêt des traitements, puisqu'on sera obligé d'arrêter beaucoup de traitements au moment de la grossesse. Donc ça, c'est une chose. Et alors, ce qui arrive, malheureusement, il n'y a pas de... Enfin, bon, il y a peut-être des cas publiés, mais enfin, il n'y a pas de description fréquente de guérison après une grossesse, parce qu'après la grossesse, il y a l'accouchement. Donc l'accouchement fait souvent soit révéler des polyarthrites rhumatoïdes qui n'existaient pas avant, soit, pas aggrave, mais relance un peu des polyarthrites rhumatoïdes qui existaient antérieurement. Bon, donc on va passer à la dernière communication sur l'éducation thérapeutique. C'est presque ce qu'on vient de faire un petit peu, là, de l'éducation thérapeutique. Donc c'est... Attendez que je trouve le bon. Tiens, je donne le micro. C'est pour un J'appuie où pour faire avancer le truc ? Donc c'est Chantal Guilleux qui va nous parler d'éducation thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde qu'on vient de mettre en place à Poitiers très très récemment. Tiens, je vais te le passer.
Bonjour à tous. Avant de répondre à la question « L'éducation thérapeutique dans la polyarthrite, pour quel patient ?», il faut répondre à celle-ci. Pourquoi l'éducation thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde ? Selon un rapport de l'OMS de 1998, l'éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Jusqu'à présent, l'éducation thérapeutique était surtout rencontrée dans les maladies telles que l'asthme et le diabète. La mise en place est déjà faite pour ces pathologies. Pour la polyarthrite, on sait que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique qui, par définition, s'inscrit dans la durée avec des périodes de poussée. Et donc, des répercussions sur la vie du patient et de ses proches sont à prendre en compte. C'est pourquoi l'éducation thérapeutique s'inscrit dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Elle permet au patient d'apprendre ou d'actualiser son rôle d'acteur dans l'amélioration de sa santé et de sa qualité de vie. Qui peut bénéficier de l'éducation thérapeutique ? La proposition doit être faite à tout patient porteur d'une polyarthrite rhumatoïde ainsi qu'à ses proches, si celui-ci souhaite les impliquer dans la gestion de sa maladie. Quand la proposer ? Tout au long de la maladie, avec des moments clés que sont l'annonce du diagnostic ou lors d'une modification de traitement. Qui peut réaliser une éducation thérapeutique ? Un professionnel de santé qui peut être soit un médecin, soit une infirmière, mais également une ergothérapeute, une diététicienne, un kinésithérapeute. On lui demande d'être formé à l'éducation thérapeutique. La validation de cette formation se fait par un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique qui, jusqu'à présent, est pour toutes les maladies chroniques. Et depuis octobre 2008, il en existe un spécifique aux maladies ostéo-articulaires. Comment réaliser une éducation thérapeutique ? Elle se déroule en 4 étapes. La première consiste à élaborer un diagnostic éducatif lors d'un entretien individuel. La deuxième permet d'établir avec le patient les priorités de ses attentes. La troisième étape est la planification et la réalisation des séances. Puis la dernière étape est l'évaluation de l'éducation avec le patient. Nous allons passer en revue les différentes étapes. Donc, la première étape est celle du diagnostic éducatif. Il se fait lors d'un entretien individuel. Il consiste à identifier les connaissances du patient sur la maladie. Est-ce qu'il connaît ses causes, son évolution ? Également les connaissances sur les traitements, quelles sont leurs actions, leurs effets indésirables. On va également identifier le stade d'acceptation de la maladie. Le patient est-il actuellement en période de déni de la maladie, de révolte, de peur, d'anxiété ? Quelles sont les répercussions sur son quotidien, au niveau de ses loisirs ? Peut-il toujours pratiquer un sport ? Fait-il du jardinage ? Au niveau des travaux manuels, où en est-il ? Au niveau de son travail, est-il toujours en activité ? Travaille-t-il à temps partiel ? Au niveau de la famille, a-t-il besoin d'aide pour les gestes de la vie quotidienne ? Son rôle au sein de la famille s'est-il modifié avec la maladie ? Au niveau de l'alimentation, suit-il un régime, par exemple pour les corticoïdes, a-t-il un régime sans sel ? Il est également important de connaître les personnes de son entourage susceptibles de l'aider. Dans un deuxième temps, il convient d'établir avec le patient les priorités de ses attentes, qui peuvent être comprendre la maladie, quelles en sont les causes, son mode d'évolution, savoir soulager les symptômes, savoir adapter le traitement, pouvoir réaliser les gestes techniques tels que les injections sous-cutanées pour certains, aménager un environnement, un mode de vie favorable à sa santé, donc modification au niveau de la maison, comme on a vu avec l'ergothérapeute tout à l'heure, également se prévoir des temps de repos dans la journée, travailler à temps partiel, aménager des postes de travail, il y a plein de choses qui peuvent être nommées ou désirées, savoir gérer ses émotions et faire valoir ses droits. La troisième étape est la planification et la réalisation des séances. À Poitiers, nous avons débuté mercredi dernier par des séances collectives dans le cadre d'un hôpital de jour. Donc le groupe est constitué de 5 à 6 patients et de 2 à 3 intervenants, rhumatologues et infirmières, mais les professionnels de santé peuvent être différents suivant les thèmes abordés. Les thèmes sont choisis en fonction des attentes formulées par le patient lors de l'entretien individuel. La séance se déroule sur 2 heures, autour d'une table, pour faciliter les échanges. Un diaporama permet de façon ludique d'expliquer les causes de la maladie, puis, avec l'aide d'un jeu de cartes, de reconnaître les signes d'une poussée. Le principe du jeu de cartes est également utilisé pour différencier les traitements de fond des traitements symptomatiques. Lors d'un traitement par injection sous-cutanée, l'apprentissage du geste n'entre pas dans le cadre des séances collectives. Il se fait en individuel à la mise en route du traitement. Un kit d'injection et un support mousse permettent au patient de reproduire le geste de l'injection.
Pour certains, l'acquisition se fait en une séance. Pour d'autres, elle sera poursuivie par l'infirmière à domicile. La dernière étape consiste à évaluer l'éducation thérapeutique avec le patient. Le contenu du programme a-t-il répondu à ses attentes? L'organisation était-elle adaptée? Depuis, a-t-il modifié ses comportements? Si oui, de quelle façon? En a-t-il ressenti des bénéfices dans la vie quotidienne? Diminution de la raideur matinale, diminution de la fatigue, diminution des poussées, reprise du travail, reprise d'activité de loisirs. À la fin de cette évaluation, une nouvelle proposition d'éducation thérapeutique sera faite si cela s'avère nécessaire. Actuellement, l'information orale ou écrite est pratiquée par les professionnels de santé. Elle est nécessaire, mais elle n'est qu'un maillon de la chaîne éducation. L'éducation doit permettre aux patients d'avoir les éléments nécessaires pour être acteur de sa maladie. En conclusion, l'éducation thérapeutique du patient fait partie intégrante de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Merci de votre attention.
Non, non, mais sur le TP. Vous voulez pas nous dire un petit mot? Vous étiez là. Dites-nous ce que vous en avez pensé.
Donc, ben voilà, je suis allée donc à la première réunion. C'était très bien. On a appris surtout beaucoup de choses et surtout pas mélanger les médicaments, ce qui était important pour nous parce que quand on a des poussées très fortes ou autre chose, c'est vrai qu'on a tendance à prendre un petit peu n'importe quoi, n'importe quand. Donc ça, ça a été très utile pour moi. Et puis aussi de voir comment évolue la maladie chez les autres. Parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout pour tout le monde pareil. Moi, je vois par exemple les orthèses, j'en ai eu aussi. Mais pour moi, ça a été inefficace. Parce que chaque fois que j'en mettais une, eh bien, le lendemain, je ne pouvais plus me servir de mon bras. Il était ankylosé, il était raide. Donc j'étais obligée de les supprimer. Donc, toutes ces choses-là qu'on peut discuter ensemble, j'ai trouvé ça très, très bien. Voilà. Et je vous en remercie.
Pardon, une question? Ah non, c'est le...
Je voulais simplement dire qu'il était très important, c'est surtout l'écoute. La personne malade a besoin d'être souvent écoutée. C'est très, très, très important. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'était très, très, très bien et instructif.
J'arrive.
Merci, mademoiselle. Je ne voudrais pas faire de pub, mais compliments au service rhumatologie du CHU de Poitiers. Toute merveilleuse.
Non, mais merci, je vous en prie. Mesdames, messieurs, bonjour et bientôt bonsoir. Alors, cette conférence a pu avoir lieu grâce au CHU et à l'AFP. Oui. Et nous vous remercions d'avoir connu un tel succès. Il y avait plus de 100 personnes dans la salle. Pour une première, c'est bien. Alors la délégation de la Vienne, qui est représentée par Madame Katia Vigné et moi-même aujourd'hui, souhaite quelques renforts. Alors si vous vous sentez capable de le faire, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter, puis on vous donnera un coup de main. Et je voudrais surtout remercier les intervenants par la qualité de leurs interventions. Merci beaucoup. Alors, il y a un petit coup à boire offert par les laboratoires Roche au-dessus, à la cafétéria. Alors merci au laboratoire Roche.